Salut à toutes et à tous.
Voilà.
Bienvenue. Bienvenue dans le podcast
566
de la rédaction de Gameblog, hein. 500e podcast déjà.
Ça fait.
Ça ne nous rajeunit pas.
Non, c'est sûr.
Mon cher Traz.
Surtout toi.
Moi, ça va, hein, franchement.
Ah, c'est vrai.
Bah, je suis pas aussi près des 50 ans que toi, donc tout va bien.
C'est vrai que tu reviens de vacances.
Oui, c'est vrai. Ça, je suis un peu plus reposé.
Pour la 52e fois de l'année.
Oh bah ça y est.
Tout si tu vois ce que je veux dire.
Les légendes. Bon, vous l'entendez, il y a Traz qui est avec moi, et si vous êtes premium, vous pouvez le voir en vidéo aussi. Et de toute façon, on enregistre en direct, et vous êtes forcément des fidèles, et vous êtes forcément en train de regarder en vidéo.
Exact.
Je suis loin d'être seul avec Traz, ce qui d'ailleurs, je tiens à vous le dire, serait pas quelque chose de très commode à gérer.
C'est vrai.
Il y a aussi Philippe qui est tout là-haut.
Et j'ai cru que t'allais présenter Eve en premier. Comme
non,
t'es
non,
pas très
galant. Certainement pas.
Les dames
en plus, elle voilà. Tu sais qu'elle est arrivée, elle a squatté le micro direct et tout.
Bah,
elle est allée au frigo, elle a pris une bière.
Ah, dis bonjour, dis merci.
Bon, du coup, je présente Eve, voilà. Que vous connaissez, qui ne fait plus partie de la rédaction. Qui ne fait plus partie de la rédaction, mais qu'on est content d'accueillir.
Exactement.
Parce qu'elle a joué un rôle très important dans cette rédaction.
Exactement.
À savoir montrer ses jambes, là, comme tout de suite.
Ah oui, c'est vrai.
Ça te marque, ça, à chaque fois que je mets une jupe, un short.
Non, pas du tout. Absolument
Putain,
pas.
Tu reviens d'Italie, hein, faut le dire quand même.
Exactement, voilà. Je reviens d'Italie. Thomas est évidemment avec nous.
Ah oui, c'est vrai.
Et oui, c'est vrai.
C'est vrai, j'avais pas fait gaffe.
Bonjour.
Camille aussi.
Et ouais, salut.
Ça Camille va, qui va pouvoir prendre le micro d'Eve, hein. Faut pas que t'aies peur. Hein. Tu sais, on est en 2019.
N'ayez pas peur.
Faut pas avoir peur. Avec nous aussi, nous avons des lecteurs.
Allez-y,
Ça va être un peu compliqué de pouvoir gérer parce qu'on a qu'un micro malheureusement pour eux.
Ils vont se le passer.
Mais ils vont passer les uns après les autres. Nous avons 4 lecteurs qui sont venus, à qui on a réservé une petite surprise parce qu'ils nous ont fait la sympathie de venir pour ce 50e podcast anniversaire, événementiel, j'ai envie de dire. Et donc, nous avons Balouk qui est avec nous. Salut Balouk.
Salut à tous. J'ai aucune idée de ce que je fais là.
De quoi ?
J'ai aucune idée de ce que je fais là.
Ah bah tu sauras tout à l'heure, t'inquiète pas.
Tu garderas pas la console, c'est sûr. En tout cas.
Oui. Ou si, tu peux toujours, mais bon, ce sera plus compliqué. Nous avons Fenril.
Bonjour tout le monde.
Allez, encore c'est un autre fidèle. On a Caniste, évidemment, toujours en pause détente.
Salut à tous.
En pause YOLO.
Voilà. Et Doudin, que vous connaissez comme étant le lecteur qui est venu au Gameblog Awards.
Voilà, salut à tous.
Quelle classe.
Voilà,
au Gameblog Awards 2018, puisque l'année passée, c'était Nathan.
C'était Nathan, évidemment, qui était le
représentant. Évidemment.
Exact.
Alors, ce podcast va être assez classique dans son déroulement.
Mais il y aura des trucs bizarres après.
Absolument. Tout d'abord, nous parlerons en thème numéro 1, et bien évidemment, de ce qui a marqué l'actualité la semaine dernière quand je n'étais pas là. C'est l'annonce d'un partenariat entre Sony et Microsoft. Est-ce que c'est la fin de la guerre des consoles ?
La fin des temps.
Parce que moi, j'ai rien suivi, donc vous allez peut-être pouvoir m'aiguiller.
T'as oublié de le dire en hurlant.
Alors c'est écrit en cap, c'est vrai que je fais jamais ça. Donc on en parlera évidemment tout à l'heure. Est-ce que c'est un premier pas vers une alliance incroyable? On n'en sait rien, mais on répondra quand même. Alors le thème numéro 2, lui, ça concernera Observation, le nouveau jeu des développeurs de Untold Stories, No Code, que Thomas a testé. D'ailleurs, vous pouvez lire le test sur Gameblog déjà.
Right.
Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On répondra évidemment. Et la troisième partie.
C'est écrit.
La troisième partie. Eh bien, les lecteurs entreront en jeu.
Voilà. Très spécialement.
Et pas
pour eux.
Au sens figuré, au sens propre. Et oui, parce qu'ils ne savent pas ce qu'on leur réserve encore. Il y aura quelques anecdotes, évidemment, que nous lirons de nos chers lecteurs qui ont gentiment participé à l'idée d'évoquer leurs souvenirs du podcast depuis. Des années. Et puis, on réserve, comme je vous l'ai dit, une petite surprise. Et il y aura les rubriques habituelles, le win, le fail, le hors-jeu, l'anniversaire.
Exact.
Mais tout de suite, et bien on peut essayer de faire un petit... comment dire, de se remémorer, oui, Thomas.
Juste avant, mon cher Plumeau, j'en profite.
Tu m'appelles Julo politiquement.
Je
tiens juste à te le dire.
Saluer tous les lecteurs, évidemment, qui nous suivent en direct. Et il y a d'ores et déjà des paris à savoir si Kenyiste, tu arriveras à tenir dans cette position pendant
toute
c'est
ce que je me suis dit
podcast.
Tout à l'heure aussi. Hein.
Pour l'instant, c'est plutôt non. Voilà.
C'est vrai.
Ouais, la dernière fois que j'ai pris une pause comme ça, Poufy a filmé mon paquet de façon langoureuse. Donc, à ta place, je me méfierai.
Et si je perds, je finis en caleçon.
Ok, c'est dit.
Ouh là 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 là.
Restez jusqu'au bout, ça va être incroyable.
Alors, Traz.
Oui, souvenez-vous,
le premier
formidable.
Podcast. Le premier podcast, tu t'en rappelles, toi, tu y étais.
Quel souvenir. Quel souvenir impérissable. Bah oui, c'était chez Julien.
Ouais.
Julien Chiez, hein, pas Julo, qui n'est toujours pas là d'ailleurs, je sais pas, on l'attend depuis tout à l'heure. Mais...
Bah c'est Julo en même temps.
Exact. Il a dû oublier ceci dit.
Bah il a dit qu'il était prêt, puis après,
voilà.
Bah, je sais pas.
Tout à fait. Donc c'était sur une table à repasser, la fameuse table à repasser de Julien, donc n'est-ce pas, qui. Avec effectivement, comme on le voit en photo pour les premiums. CAF qui s'occupait de la technique avec son vieux Mac.
Avec cette vieille table de mixage. Cette
vieille table de mixage toute dégueu.
Non, c'est fini,
non,
cette table de
d'ailleurs, mixage. D'ailleurs, ceci dit, elle est dans la salle de l'autre côté, je crois.
Ouais, mais elle avait rendu la main.
Elle avait rendu la main, ouais. Tout à fait.
Donc tu t'en rappelles.
Et donc du coup cette fameuse table à repasser qui nous a servi pendant très très longtemps. Je sais plus combien de podcasts précisément elle a fait, elle a vécu, mais
ou plus de 200, c'était 280 ou 300. Hein.
Ouais, facile, hein, facile. Donc voilà, j'étais chez Julien à l'époque et.
Et que de chemin parcouru. Rigolo,
et que de chemin. Là, sur les photos, on voit Greg, Raon.
Oui, parce que les podcasts, c'était beaucoup. Il y a eu beaucoup de monde qui est passé dans les podcasts.
Oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde.
Greg qui rentrait de vacances, lui aussi.
Pas mal d'invités.
Oui.
Effectivement, son pantalon, pas de def.
Ça, c'est son style vestimentaire habituel. Hein.
Oui.
Oui, mais je veux dire. Oh,
tiens, voilà. Une photo de plume.
Oh, ça devient sexe.
Ouais, fin 2008, ouais. J'avais pas encore de lunettes, j'avais peut-être 5 kilos en plus.
Et... c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais bon.
Ouais, bah c'est, oui, normal, bah c'est normal, hein. C'est l'effet que me fait.
Mais c'est vrai que sans lunettes, t'as pas la même. T'as pas la même tête.
Bah oui, comme tout le monde. Hein.
C'est vrai.
C'est un peu le principe.
Voilà, donc Julien.
Et donc.
Et donc
la suite. La suite, tous les autres podcasts.
La suite, tous les autres podcasts.
Parce que t'as un bon.
Ouais.
N'est-ce pas?
C'était un peu galère d'ailleurs d'aller chez Julien pour moi, parce que comme j'habite pas sur Paris. Je devais faire quasiment une heure et demie en bagnole pour y aller le soir quand j'y étais invité, surtout au début en fait. Mmh. On les faisait tous. Et parfois quand je rentrais chez moi, je mettais 3 heures parce que soit l'autoroute était fermée, soit il y avait un souci, soit un machin. Enfin, c'est tout le temps une galère incommensurable.
Alors qu'aujourd'hui tout va mieux, tu prends le train.
Non, il y a toujours des galères.
Ils sont tous à l'heure.
Non, ils sont pas tous à l'heure malheureusement. Et donc voilà, donc c'était des très très bons souvenirs hein, de commencer comme ça tout doucement. Et effectivement, à cette époque-là, c'était que des podcasts audio, hein, il y avait pas de vidéo évidemment, puisque la vidéo est arrivée bien plus tard. Je sais pas si j'ai le droit de le dire maintenant. Non, pas encore.
D'accord. Bon, tu peux en parler si ça te fait plaisir, hein, mais t'es pas obligé.
Et ensuite, oui, on a fait des podcasts spéciaux comme celui qu'on voit ici. D'ailleurs, c'était lequel celui-là?
Ah, j'aimerais bien le dire, mais je crois que je vais pas en parler.
C'est le fameux? Non, c'est le fameux. D'accord. C'était dans les locaux de je ne sais plus qui.
C'est dans le 17e.
Oui, c'était une boîte.
Ou 16e, non.
Avec qui on avait fait justement ce deal. Qui nous avait prêté
avec Angèle qui avait quelques kilos en moins aussi.
Et
hein.
Lush Life.
Oh la vache.
Et un mec qui baille à gauche, je sais pas qui c'est. Je les connais pas tous, je vous avoue.
Oh, arrête. Non, pour avoir aussi Mr. P.
Ouais, Mr. P.
Donc Angèle avec 50 kilos de moins, lui.
Ouais, mais moi aussi, hein. T'inquiète. Hein.
Ah ouais. Donc, voilà. Les cheveux longs.
Il y a toujours un tableau à repasser, hein, vous remarquerez.
Ah ouais, c'était.
Moi je suis sur le côté à gauche, je crois. Je sais
bon, on donnera pas le numéro, mais c'était avant que les podcasts deviennent finalement.
Tout à fait.
Et Cyril de No Life qui était à la Réal.
Oui, peut-être, je sais plus.
Bah ouais, qui est en train de.
No Life était très lié à.
Et Johnny One qui arrive tranquillement.
No Life était très lié à Game One.
Oui, tout à fait, ouais. Bah c'était à l'époque où effectivement on était dans les locaux d'Ankama avec No Life entre autres, et du coup.
Donc Johnny One est arrivé, comme d'habitude, en retard.
Sans se presser.
Voilà. Vérifier ses poches avant de
avant de laisser partir
absolument. Donc après ce podcast, donc tu disais
c'était un
chez
podcast
Ankama.
Un peu spécial. Après chez Ankama, c'était
rue du Faubourg Poissonnière, non, rue du Château d'Eau.
Juste Château d'Eau, exactement.
Est-ce qu'on a des vidéos de ça toujours?
Je sais pas.
De cette époque sous la verrière.
Je crois qu'on en a après, mais on a d'abord commencé dans une petite salle, c'était dans notre bureau. Mm-hmm. Et là par contre, c'était vraiment minuscule hein, c'était sur peut-être la moitié de cette pièce en fait.
Ouais.
Et on était complètement compressé, un peu serré, mais bon, c'était quand même à la bande franquette. Il y a eu pas mal de gens qui sont passés, dont Guillaume Delalande, je crois, qui avait commencé à être invité de temps en temps chez nous. Mm-hmm. Je me souviens aussi d'un podcast avec je sais plus qui. J'essaie de me rappeler. Bon, bref, c'est pas grave. Il y en a eu plein. De toute façon, vous pouvez tous les retrouver sur Gameblog. Hein,
exactement.
Il y a toute la liste, il y a tous les trucs qu'il vous faut, il y a toute. Tous les sons, tous les MP3.
Et vous pouvez toujours nous dire sur Discord aussi lesquels sont vos préférés.
Exactement.
Encore une fois, on vous a déjà posé plein de fois la question.
Tout
on sait
fait.
Je crois que c'est la 73 qui ressort souvent.
Allez savoir pourquoi.
Et le 44, parce que le 44, évidemment.
Parce que c'est un
le
chiffre
maudit.
On nous parle du podcast 200 et d'Ivéder qui nous rappelle que tu étais passablement éméché à ce moment-là, mon cher Plume.
Alors, moi j'en ai.
Lui, apparemment, s'en souvient en tout cas.
200, j'étais éméché.
Bah, paraît-il, bah, écoute,
c'était
on quoi l'étape du
200? C'était quoi? Oui, il faudra qu'il
parce que c'était
les
il y a 300 numéros, oui, ça commence à faire.
C'était.
À remonter, ça fait un bail. Hein.
Oh, franchement, je me souviens
pas du tout.
Ça, hein. Je pense qu'il est bourré. C'est lui qui est bourré et qui.
Peut-être, qui a dit un numéro au pif.
Bon. Voilà.
Donc après, Ankama, on a comment. Enfin, après le petit bureau chez Ankama, dans nos petits bureaux là où était Gameblog, on est passé sous la verrière. Je sais pas pourquoi on a décidé un jour qu'il fallait qu'on fasse le podcast sous la verrière parce qu'il y avait un grand espace énorme avec une hauteur sous plafond c'est gigantesque. Bon, par contre il faisait très très chaud l'été, mais on avait tout un espace énorme où on avait largement la place de mettre les canapés, les gens, etc. Et là effectivement on était déjà vachement plus à l'aise, quoi, ça c'est clair. Je crois que c'était la plus grande pièce qu'on a eue pour faire des podcasts
Alors que celle d'après, à Voltaire, c'était autre chose.
Ouais. Toi, tu dis Voltaire, moi je dis Nation.
Ah, c'était plus près de Nation, tu penses?
Ouais. Bah, vraiment, il me semble. Hein.
Je sais pas, je me rappelle plus.
Oui, enfin bref, c'était entre les deux de toute façon.
Ce célèbre décor.
Ah, bah voilà, c'est voilà. Cette pièce-là ouais, qui était minuscule.
Mais alors, je m'en souviens plus du tout. Ah, ah bah, oui, moi, si, je m'en souviens
très bien.
Oui, je m'en souviens parce qu'effectivement, on avait mis le kakemono, je sais plus comment on appelle ça, dans le fond. Et effectivement, c'était une pièce minuscule, quoi. Tu sais, je crois que c'était la plus petite salle qu'on ait eue pour le podcast. Effectivement,
ouais, Tiger avait 12 ans à l'époque.
Quand on avait déménagé donc à Nation. Nation Voltaire, comme tu veux. Et effectivement, c'était pas et très voilà. Grand.
Avec le test, bon bah on tient pas à 4.
Ouais, c'est ça. C'était un peu compliqué. Je me souviens même plus de cette vidéo, tu vois. C'est bizarre, mais c'est assez marrant de revoir ça. Du coup. Ah, ils étaient même à 5. Incroyable.
Ah, je sais pas comment ils ont fait.
Ouais, c'est ouf, hein.
Bah, ils étaient plus veltes à l'époque.
Ouais, ouais c'est ça en fait.
Et vous aussi, en fait.
Là, je t'aiderai plus, là,
notamment
sur le canapé. Je prends une place tout seul.
Notamment Tiger aussi.
Voilà. Donc ça, effectivement, c'était la salle où on était le plus serré, du coup, comme vous pouvez le voir, ceux qui peuvent voir la vidéo.
Vous êtes rapprochés, du coup, il y a eu des histoires d'amour.
Non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Et ensuite,
après, il y a eu Montreuil.
Après Nation, il y a eu Montreuil. Et ben, Montreuil,
où là, on avait énormément de place.
Ben, là, on a eu une grande place dédiée, un bureau entier, en fait, hein, dédié au podcast. Où là, on a pu faire un aménagement comme on voulait. C'était royal, quoi. C'était même mieux que chez Ankama, parce que chez Ankama, il y avait quand même du passage, etc. Donc, fallait souvent demander le silence, etc. Comment on partageait les locaux, c'était un peu plus compliqué. Mais effectivement, à Montreuil, on avait une salle dédiée. Là, on voit une photo avec Sébastien Abdelhamid,
ouais.
Qui a été un des premiers à venir à nos podcasts là-bas. Et voilà. Donc là, effectivement, on avait beaucoup, beaucoup de place. Et il n'y avait plus la table à repasser à ce moment-là. Elle avait complètement disparu. Et là, on a commencé à faire des, entre guillemets, des vrais podcasts. Techniquement un peu plus élaboré, on va dire. Voilà. Puis ensuite.
Bah on est arrivé ici.
On est arrivé ici.
Voilà. Et on tient à beaucoup aussi.
Là, ça va, on peut tenir à une dizaine.
Voilà. Grâce notamment à Kanyeist.
Qui s'allonge par terre.
Ça pose totalement
détente. Ça pose podcast, tout à fait.
Ah, il paraît que Fenrir est sous étroite surveillance aussi du chat. C'est et vrai. Que des gifs se préparent.
quelque
part en France.
Des gifs animés.
Que certains membres de Discord auxquels on vous convie, hein, évidemment.
Exactement, allez-y sur Discord. Hein, allez-y.
Sur Discord, discuter avec les autres lecteurs. N'hésitez pas à surtout demander à Arukado, hein. Pour les montages, c'est Arukado.
Cadeau.
Qu'il faut contacter.
Qu'il faut contacter.
Bon. On va bientôt rentrer dans le vif du sujet, mais avant
tout
ça,
fait.
On sait qu'il y a quelque chose qui peut intéresser les personnes qui sont venues assister à ce podcast en direct.
C'est vrai.
Alors, je vais demander
à
très doucement
à
Fenrir et Balouk de s'écarter en vidéo, évidemment, pour révéler derrière eux, eh bien, une PS4 Pro 500 millions. Alors, 500 comme les 500 numéros de Gameblog et
c'est
millions
incroyable.
Comme le compte en banque de Traz. Voilà.
Voilà.
et donc. On s'est dit qu'on allait vous faire gagner ça. Et pour vous faire gagner ça, eh bien, il va y avoir une méthode très simple. C'est que vous allez devoir...
La méthode américaine.
Vous allez devoir répondre à des questions, vous,
métaphysique.
Là, depuis chez vous, sur Twitter. Trois questions que nous allons vous poser durant le podcast. Donc, il va
exact.
Falloir suivre le podcast en entier. Attention.
Ouais, il faut aller jusqu'au bout. Hein, vous n'avez pas le choix.
Absolument, il faut aller jusqu'au bout. Et donc, pour réussir, il faudra aller sur Twitter... Vous allez follower le compte Gameblog.
Voilà.
C'est une obligation. Vous allez, une fois que le,
follow tout court, ouais,
le
raison,
podcast,
Eve.
Une
Eve
fois
la
que la troisième
pro,
question
la
sera posée, vous aurez à vous adresser à Gameblog avec le hashtag Gameblog500 et vous devrez mettre les trois réponses les unes après les autres. Et là, nous, après ce sera à nous, une fois que le podcast sera terminé,
de tirer au sort,
on tirera au sort le vainqueur qui sera désigné demain en
oui.
grande pompe.
Oui.
On fera même une vidéo, je pense, une vidéo hommage.
Oui. On déballera la console gagne, et voilà. On la cassera devant vous. Et
exactement,
voilà.
On la mettra, on la mettra au micro-ondes.
Et vous aurez le seum.
Et voilà. Et voilà.
Donc ce sera le meilleur unboxing de l'histoire.
Vous voyez en vidéo évidemment le contenu de,
ouais.
de cette machine parce qu'on on l'a vraiment pas déballé.
Non, non,
hein.
Elle est telle qu'on l'a reçue. Hein.
Le plastique qui est dessus,
voilà.
Elle est intégralement neuve. Ça se trouve, elle marche pas.
Oui.
Mais en tout cas, elle est neuve.
Ça sera pas de notre faute. Il faudra demander à Sony s'il y a un problème.
Donc,
voilà. Johnny One, il veut déjà la piquer.
Et voilà, et Johnny One qui veut déjà commencer. Johnny One, il va falloir que tu répondes à des questions.
Johnny
on va commencer par la première question tout de suite.
Et Johnny One n'a pas le droit de gagner. Attention.
Johnny One, tu ne peux pas, tu fais partie
de la rédaction. Tu fais partie de la rédac, t'es mort.
Et ouais.
C'est mort.
Première question du concours, attention.
Qui a remporté les Jeux Olympiques de...
Attention. Quel jour de quelle année a été diffusé le tout premier podcast de la rédaction de Gameblog? Voilà, vous avez la première question. C'est facile, je crois qu'on en a parlé.
Oui, donc faut donner le jour, l'année, hein, maintenant.
Vous mettez le jour, l'année.
Non, je n'en ai pas parlé, mais
dans
c'est
pas un grave. Tweet adressé à Gameblog
que
vous followez avec le hashtag Gameblog500, vous mettrez cette première réponse avec les deux autres des questions que nous vous poserons au cours de l'émission. Et maintenant,
tout à fait,
on va pouvoir reprendre le cours normal de ce podcast en commençant par le win de la semaine. Et le win de la semaine, eh bien, c'est moi qui m'y colle, parce que c'est Thomas avait décidé que c'était moi qui m'y collais.
Exactement.
Et qu'au moins ça, j'ai pu suivre pendant mon retour de vacances. Eh bien, c'est tout simplement God of War. Voilà, God of War, c'est le win de la semaine. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un jeu merveilleux.
C'est vrai.
Et ensuite, parce qu'il a dépassé les 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde
au
31 mars 2019, soit un peu moins d'un an après sa commercialisation. Il est sorti le 20 avril 2018. C'est amplement mérité pour le jeu de Santa Monica, qui mériterait même encore le double, hein, tellement il est extraordinaire.
Le triple.
Et on en profite, d'ailleurs, nous tous, au passage, hein, parce qu'on l'a tous regardé ici.
Non,
il y a que Poufi et moi.
J'ai commencé.
Ouais, bon, ok, t'as commencé.
Deux heures quand même.
Oui,
vous avez le droit de prendre le micro.
Mais
non, hein,
mais exactement,
parler,
mais deux heures devant une vidéo, mon cher Plume, pour certains, ça peut être très long, figure-toi.
Même pour sortir des conneries.
Lâche ton cognac et ton livre de Jean-Paul Sartre.
Jamais.
Je te dis.
Jean-Paul
Sartre. Bah oui, mais non, mais là, à un moment, il y a des priorités dans la vie. Donc, on vous conseille vraiment, vivement, de regarder le documentaire Raising Kratos, donc qui dure 1h54 et 58 secondes. Exactement.
C'est trop.
Je l'ai mémorisé, hein, vous inquiétez pas.
Dans mon pays, c'est trop.
Et donc, dans lequel vous allez apprendre vraiment, vous allez découvrir vraiment les coulisses de la conception du jeu depuis ses débuts. Comment aussi
les mecs en ont chié.
Bah exactement, comment ils en ont chié. Comment Santa Monica a dû gérer l'annulation d'un autre projet qu'ils avaient dans les cartons et que ça a un peu foutu le bordel au sein du studio. Comment ils ont géré leur vie privée. On voit notamment Shannon Studstill, là, la présidente du studio, qui à un moment est interrogée sur sa vie privée. Et personnellement, c'était le moment que j'ai trouvé le plus poignant, parce que
c'est vrai, t'as pleuré.
Elle refuse, bah limite,
c'est vrai.
Elle refuse d'en parler parce que c'était très très dur et qu'à mon avis, ils ont dû cruncher comme des cochons. On voit aussi le moment où les gens du studio et Cory Barlog qui jouait à la démo à l'E3 2016, comment ils ont accueilli justement la réception du public, déjà dans la salle à l'E3 à ce moment-là, mais aussi d'Internet, qui a eu beaucoup de réactions filmées. On peut voir Christopher Judge, évidemment. On a aussi le petit gamin qui joue Atreus. On a Daniel Bisouti qui joue Freya, qui interviennent aussi pour parler un petit peu de leur expérience. Et c'est vraiment un documentaire qui est passionnant de bout en bout et qui a vraiment... Qui doit vraiment être regardé si vous êtes passionné par ce média. Voilà. C'était pour le win de la semaine. 10 millions God of War. Bien, ouais. Bravo.
Chapeau pointu.
Par contre, le fail, là Camille, ça craint, non?
Bah, ça concerne de la censure.
Oh, Camille, ouais. T'étais là?
Ouais. La contrainte de la censure, oh mon dieu.
Ça concerne de la censure, parce qu'on sait que donc la Belgique en ce moment.
La censure bolchevique ou?
Oui, la censure bolchevique. Cher à ce cher Thomas à ma droite.
Dit Thomas le Rouge, évidemment.
Thomas le Rouge.
Donc on le sait, la Belgique est très sévère envers la politique de lootbox, puisque suite à l'affaire Battlefront 2.
C'est vrai.
Star Wars Battlefront 2,
la Belgique avait décidé de considérer les lootbox comme des jeux, comment ils appelaient ça,
des jeux d'argent simplement.
Des jeux de fric.
Et donc forcément, il y a des éditeurs qui ont dû retirer leurs microtransactions de leur jeu, et d'autres qui ont préféré retirer carrément leur jeu. Et c'est le cas là de Nintendo, qui a retiré Animal Crossing, Pocket Camp et Fire Emblem Heroes, donc du store Android de Belgique, tout simplement parce que le jeu contenait des microtransactions, et ils ont préféré, ils ont pas vraiment fait l'effort en fait de les retirer. Le message officiel qu'ils ont adressé donc à nos confrères de Belgique est le suivant: en raison d'une situation ambiguë concernant certaines méthodes de monétisation dans les jeux en Belgique, nous avons pris la décision d'arrêter le service pour Animal Crossing, Pocket Camp et Fire Emblem en Belgique. À partir du mardi 27 août 2019, il ne sera plus possible de jouer à ces logiciels, et ils ne seront plus disponibles au téléchargement. Voilà, donc c'est un peu triste pour ceux qui étaient fans du jeu et qui prenaient plaisir à y jouer.
Alors,
question très pragmatique, qu'est-ce qui arrive aux mecs qui ont foutu genre 100 balles dans Fire Emblem?
Rien, justement. Ouais, visiblement, ils l'ont puisque le jeu est totalement retiré en fait du...
Non, je suis pas belge.
Mais c'est pas belge
non plus.
Mais pour le coup, c'est vrai que c'est une question intéressante parce que la microtransaction. La question de Johnny Man, qu'est-ce qui se passe pour tous ceux qui ont mis de l'argent dans les microtransactions de ces deux jeux supprimés? Malheureusement. Alors, ça peut se changer, justement. Si les gens se plaignent, Nintendo peut changer d'avis. Mais pour l'instant, il n'y a pas de message particulier et ils l'ont dans le cul, quoi. C'est un peu problématique, quoi.
Bah oui, c'est très problématique. Puis surtout, il parle de l'avenir aussi dans ce communiqué.
Mais oui.
Et on peut imaginer, même à coup sûr, que Mario Kart Tour ou le Dr Mario, dont j'ai oublié le nom, Dr Mario World. Merci, merci Thomas.
Ouais, il y en a qui suivent. Hein.
Bah oui, moi j'étais pas là.
Bah soit ils font des versions on va dire un peu édulcorées qui ne contiendront pas de lootbox et du coup qu'on pourrait imaginer différentes par rapport à, aux autres versions occidentales, soit tout simplement une version qui ne sort pas en Belgique.
Bah, elle ne sortira pas en Belgique, c'est comme ça qu'ils l'ont stipulé.
Donc, question, si tu changes la localisation de ton portable ou quelque chose comme ça, c'est pour faire croire à ton téléphone que t'es pas en Belgique.
Mais
c'est possible. De...
Oui,
c'est faisable. Hein.
Ouais. Tu peux déjà faire avec Steam parce que il y a déjà ce problème avec Steam, mais pour d'autres problèmes de censure pour les jeux violents notamment, on sait que l'Australie par exemple a tendance à censurer la violence dans les jeux vidéo et souvent bah on passe, enfin les utilisateurs Steam de australiens passent par une IP différente.
Sur les iOS, Android, surtout Android, que je pratique un petit peu, j'ai du mal à imaginer ce genre de système changer de
ah, si,
son compte de région.
Je sais pas, si tu changes ton IP,
tu changes d'IP, c'est très simple.
Mais après, c'est.
Doudin explique. Attendez, stop. Doudin était en train d'expliquer.
Pour acheter de la drogue sur le marché noir, c'est simple.
À toi, Doudin, dis-nous.
Tu peux créer un compte sur le store américain ou le store français. Et à condition d'avoir avant à l'époque il fallait une carte bleue du pays, mais maintenant maintenant il n'y a plus besoin.
Ouais. D'accord. Mais la question c'est comment tu fais passer ton compte belge en compte américain? Est-ce que
non,
ça c'est possible?
Là, t'es niqué.
Non mais tu refais un compte Google en fait, ça c'est tout. Je vois pas, tu refais une adresse mail Google j'imagine. Et après est-ce que selon ton adresse IP et tout, ça marcherait peut-être pas?
Mais il y a déjà il y a des petits malins qui utilisent déjà ça sur les stores en fait pour acheter des jeux moins chers, puisqu'on sait que sur certains stores par exemple ils se mettent leur IP, non même pire qu'en Russie, des pays vraiment où
pire qu'en Russie. Non mais alors là Camille ça va finir par se voir, hein. Il y a un moment il faut que tu arrêtes avec
ces
histoires.
On va dire des pays où
non mais que t'aies des vues politiques différentes ok, mais là les explique pas comme ça. Vladimir il va nous appeler.
Des pays aux Pays-Bas plus faibles que le nôtre on va dire, où les prix sont totalement différents. Par exemple ils peuvent en Indonésie par exemple, c'est souvent c'est le cas où on peut acheter des jeux genre à 20, 30, 40, parfois 40 euros de moins que la version occidentale et on peut passer par là. Maintenant, je crois qu'IA a changé ça parce que sur Origin, on peut faire ça avant.
Ouais, des fois aussi en Chine et au Maroc, t'arrives, t'as des CD de Final Fantasy XVI que tu peux acheter ou des trucs comme ça. Mais c'est une autre histoire. Trace, tu voulais dire quelque chose, non? C'est Thomas.
Je disais à Philippe s'il voulait dire un truc qu'il n'hésitait pas.
Ah oui, non,
Je crois que
je peux pas boire quelque chose.
C'est la
fin
de l'alcool.
Je quelque chose, je sors et je reviens, hein, t'inquiète.
Donc voilà pour le fail de la semaine. Maintenant, mon cher Thomas, on va passer au il y a 10 ans sur Gameblog. Alors Thomas, il y a 10 ans sur Gameblog, il y avait Taras qui faisait des bruits bizarres.
Ouais, exactement. Et avant de repartir dans l'actualité venue du passé, Nathan nous fait remarquer avec beaucoup de délicatesse que le micro sans fil que nos lecteurs utilisent doit être placé très très près de la bouche, quitte à l'avaler. Voilà. Donc souvenez-en vous. Et pour recoller au sujet, effectivement, il y a 10 ans sur Gameblog, qu'est-ce qui se passait, mon cher Taras? Eh bien, c'est toi, évidemment, qui une fois de plus, nous permet d'ouvrir un petit peu cette rubrique.
Là, j'ai tout fait en fait sur Gameblog.
Oui,
exactement.
C'est incroyable.
Tu as tout fait. Hein, en tout cas, il y a 10 ans, c'était toi qui faisais tout.
C'est vrai.
Et on commence cette sélection par la présence d'une Wii en or qui avait été offerte à la reine d'Angleterre. Le donne en mille.
Avec une super image pixelisée.
Exactement. Oui, je me souviens très bien. Les images pixelisées de l'époque. Puisqu'en fait, c'était une opération de communication de la part de l'éditeur THQ qui espérait comme ça faire la promo d'un jeu qui s'appelait Family Games et qui estimait que si la reine d'Angleterre devait jouer à cette espèce de party game multijoueur, eh ben, il fallait qu'elle joue sur une console à sa hauteur, à sa mesure, et donc voilà, c'est une console plaquée or qui a été offerte à Elisabeth II.
On imagine tellement jouer à la Wii, c'est incroyable. C'est incroyable.
Et oui,
bah, tu plaisantes, c'est sûr qu'à Wii Bowling ou à Wii Tennis, elle nous défonce.
Dans l'article, c'était précisé qu'elle allait y jouer, a priori. En tout cas, l'éditeur se justifiait de ce geste commercial. Alors, j'ai regardé un petit peu, le jeu en question, Family Games, n'avait pas été testé par Gameblog, mais je suis allé regarder un petit peu le profil Metacritic, qui est à 42.
Je crois que t'allais dire métaphysique.
Et j'ai pris une quote de la meilleure critique signée Gaming Age, qui nous disait « N'achetez pas Family Games, sauf si vous haïssez les jeux vidéo et que vous souhaitez torturer vos amis qui viendront y jouer à la maison. » Voilà.
Classe.
Donc, on imagine que la famille royale s'est bien amusée avec ce jeu que tout le monde a oublié depuis. Ensuite,
deuxième,
c'est Raon, au nom potentiellement imprononçable, me semble-t-il, qui nous en parlait.
Ah si, c'est prononçable.
C'est vrai?
Oh oui, Shrift Geyser.
Ok,
bon, je te le prononce.
Shrift Geyser.
Je m'incline. Ah, bon, qui nous parlait d'une étude du NPD Group
qui casse les idées reçues,
qui il y a 10 ans effectivement cassait les idées reçues en nous dévoilant que les Américains jouaient plus aux jeux vidéo qu'ils n'allaient au cinéma. Et j'ai envie de dire que ça arrive à des gens bien.
Comme toi.
À des gens très bien, comme moi par exemple, exactement. Donc une étude chiffrée.
Non, Gentleman, c'est pas possible.
Qui nous détaillait un petit peu justement les pratiques des joueurs américains à cette époque-là. Donc une étude qui date de 2009. Et j'ai regardé un petit peu l'étude en question qu'on pouvait retrouver gratuitement sur internet. Elle a été prolongée au fil des ans, donc elle a été actualisée. Et ce qui est drôle, c'est que pour l'étude la plus récente qui date de 2017, on se demande plus du tout si les gens vont plus au cinéma ou passent du temps devant leur console. On leur demande s'ils préfèrent streamer des films ou aller justement au cinéma. Donc les catégories ont complètement changé. Et donc en 2017, 50% des consommateurs interrogés streamaient des films. Et parmi eux, 50%, donc 25% du total, le faisait sur de multiples services. Donc on a complètement changé d'horizon avec le temps. Alors qu'arrive, voilà.
Alors que vient d'arriver
Julien Hubert.
Ah, hein. Eh oui, il y a énormément de monde pour accueillir. Hop. Eh bien, Julo, on te laisse un petit peu de place. Il y a Eve qui
non,
va.
Mais attends, tu vas pas te mettre par terre.
Il y a Eve qui est à mes pieds, c'est bon.
Si, si, t'inquiète.
Bah, moi, je vais me mettre par terre et toi, tu restes assise. Non, 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 mais reste assise. Reste assise sans blague.
Voilà, un petit moment de flottement. Dû au fait que Eve laisse sa place à Julo.
Je récupère Julo ce micro là.
Qui...
Attention,
j'ai, évidemment, elle vient à la main.
De prendre sa place.
Non, non, franchement.
Mais Julo, il a rien à dire, hein, tu peux reprendre l'autre micro. Hein.
Ça va les copains?
Bah, c'est toi qui posais la question. On était en plein 10 ans sur Gameblog là.
C'est vrai?
C'est vachement l'heure.
Ok.
Non, je déconne.
Ouais. Justement, bah, je trouve que t'as.
Heureusement, j'ai gardé les clés, vous avez pas entendu le. De la porte.
C'est vrai. Bravo, bien joué.
Absolument. J'ai gardé les clés pour aller piquer les collecteurs que Johnny One pique pas.
Tu sais que t'as des, des costards à récupérer aussi.
Oui, c'est ça.
Ouais, t'as des bon, affaires aussi. Hein. Tu verras pas ça, ton chèque à la compta aussi. Hein.
Ça, c'est bon, ça.
Ah bon, ok, d'accord.
Ça, c'est fait.
Et donc, dernière rubrique avant de conclure moi, sur cette parenthèse un petit peu nostalgique, c'était celui qu'on appelle ce connard d'Angèle, qui nous parlait d'un certain Antoine Faucon qui nous prenait pour des pigeons. Donc ah, vous l'aurez deviné, c'était de Tony Hawk dont il s'agissait. Ah, et bah, ce cher Angèle avait crevé un petit peu le plafond. Quoi? Angel. Angel.
Non, non, mais vas-y.
Angel.
Angel.
Comme la chanteuse, c'est ça?
Exact.
Angel d'Abril. Nous parlait du prix assez prohibitif de Tony Hawk Ride qui allait être vendu avec une véritable planche de skate pour s'y croire comme jamais.
C'est classe.
Et à l'époque, ça paraissait énorme puisque le pack était facturé $120.
Bah, c'est cool.
Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde le prix des collecteurs qui sortent pour à peu près tous les jeux maintenant, finalement, c'était pas si non, déconnant que ça.
Ouais, mais à l'époque, même pour un jeu à guitare comme Guitar Hero ou Rockband, c'était 79 à la limite pour avoir une guitare en plastique en plus. Donc là, $120, oui, ça paraissait assez prohibitif.
Oh, vous êtes jamais content.
Mais de toute façon, le jeu, il s'est vautré.
Tout à fait, et quelques mois plus tard, le même Angèle Davila nous parlait justement des réactions de Tony Hawk, qui face aux critiques de la presse disait que de toute façon les gens n'avaient rien compris et qu'ils s'étaient déjà fait un avis avant même d'avoir joué au jeu. Et c'est dommage parce que Tony Hawk c'était quand même une série qu'on appréciait plutôt bien à une certaine époque,
ouais,
mais qui effectivement depuis l'époque de Ride a un petit peu périclité.
Absolument.
Voilà mon cher Plume.
Eh bien, je reprends...
Tony Hawk sur Twitter ou pas?
Non.
Non, il n'arrête pas de faire des tweets de
il fait des tricks aussi
pour se féliciter que les gens le reconnaissent en fait.
Donc, ah ouais.
Vous avez déjà vu ça?
Non.
C'est des tweets d'autosatisfaction.
Des tweets genre ouais, 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 j'étais au restaurant et la nana elle m'a dit vous êtes vraiment Tony Hawk? Et moi je lui ai dit ouais, je suis Tony Hawk. Voilà.
Ok. C'est passionnant.
Non, oui, vraiment passionnant. Ouais.
Je vais aller suivre tout de suite.
Ah oui.
Ah bah, c'est parti.
Si je vous ai donné envie,
c'est vrai que la jeune génération, c'est pas qui c'est, hein, en vérité.
Ouais.
Ouais, le nom gens... si, mais après le visage.
Non, mais son compte Twitter, il doit pas être extraordinaire.
Les ricains plus que.
Oui, voilà,
que
c'est ça.
Quoi, c'est sûr.
Puis, c'est dire, c'est la génération d'avant Twitter, quoi.
C'est une légende, hein, quand même.
Oui. Mais pour nous, mais pas pour les jeunes. Con.
Les jeunes. Il était dans Jackass et tout en plus.
De toute façon, les jeunes, ils aiment plus rien.
C'est vrai. Bon, on va passer maintenant. Une fois n'est pas coutume, à une rubrique qui est censée être à la fin de l'émission, mais pour arranger Camille, parce qu'on est sympa avec Camille, on va la faire maintenant.
On alors, est sympa
bienvenue
avec Camille
dans le hors-jeu de cette semaine, hors-jeu que nous allons consacrer à un film. Camille, oui. Mon cher Camille, et tu as eu la chance, le bonheur de voir...
Exactement.
De voir un film que tout le monde a envie de voir.
Oui,
et qui s'appelle John Wick 3.
John Wick 3, Parabellum, exactement. Puisqu'en fait, le 3, ils l'ont rajouté un peu à la fin. Enfin, à la base, c'était vraiment le titre officiel, c'était Parabellum.
Uh-huh.
Et donc, bah, moi qui suis grand fan donc, de la saga John Wick, bah, j'ai été ravi de pouvoir assister à cette séance. Pour ceux qui n'ont pas vu, donc les deux autres, on fait juste un rapide récapitulatif. Donc, c'est vraiment le synopsis du film. Donc, je ne spoil strictement rien. Hein, c'est synopsis du 3. Donc, John Wick, il est en cavale parce que. bah, il a tué un membre de la grande table et donc du coup il y a 14 millions de dollars sur sa tête en prime et bah, il va devoir se sortir de ce problème là. Et évidemment c'est l'occasion pour le réalisateur Chad Chelesky, qui était un ancien chorégraphe et cascadeur, bah, d'apporter de nouvelles têtes d'affiches au film, notamment mon cher Plume
Alberi. Ah là là, Alberi. Angelica Houston, on sait qu'on peut voir ici.
Marc Decascos.
Marc Decascos.
Decascos.
Marc Decascos. Non, mais alors. Non, mais
alors, alors attention.
Non, mais là, c'est impossible, Camille. T'as l'air, tu me dis, ah, moi, je sais prononcer les trucs espagnols super. Et là, Marc Decascos, quoi. Je veux dire, faut arrêter. Marc Decascos, c'est une légende.
Oui,
merde.
Oui, bon.
S'il vous plaît, j'interviens tout de suite sur le pitch de départ.
Decascos, ils ont tué son chien.
Quoi?
Ils ont pas tué son chien.
Mais dans le
chien,
il a beaucoup souffert.
Bref. Un français donc qui est Saïd Tegmaoui, qui est un très bon acteur qu'on voit très peu finalement dans le film, mais on voit peu dans le film, mais finalement bah il joue un rôle très de quoi. Bon. Tu connais les gens qui coupent la parole?
Ouais.
Vas-y, alors. Poursuivez, monsieur.
Vas-y, Camille, continue.
On s'en fout, c'est pas le 4500, fait ce qu'on veut.
Ouais, c'est
le.
Et Jérôme Flynn, qui joue le rôle de Bronn dans Game of Thrones.
Absolument.
Qui est un peu son rôle phare, puisque je suis pas sûr
bah,
que tout le monde.
Il joue aussi dans Reaper Street.
Certes, mais c'est son rôle, on va dire, fameux. Oui, tout le monde le reconnaîtra. Donc, bah, cet épisode John Wick 3, c'est un peu bah, la quintessence du film John Wick. C'est pour moi le meilleur épisode de la saga. Et. Il a été acclamé par les critiques de manière assez admirable. Je crois qu'il a 95% de critiques positives sur Rotten Tomatoes, ce qui en dit long sur le film.
Ou pas. Mais alors c'est quoi ses grandes qualités par rapport aux deux premiers? Voilà, par rapport aux deux premiers.
Alors déjà, le premier film bon, avait déjà été acclamé, le 2 un peu moins. Il y a eu certaines critiques qui avaient été émises notamment sur les combats, etc., qui n'étaient pas forcément aussi bien mises en valeur que dans le premier opus. Là, pour le coup, on a vraiment un changement de décor déjà, puisque John Wick ne reste plus uniquement aux États-Unis, mais ils seront aussi donc à Casablanca. Ça permet bah, de mettre en... De quoi?
Comme par hasard.
Bah il rencontre. C'est d'ailleurs là-bas qu'il rencontre Alberi. Désolé. La magnifique Alberi qui a suivi un entraînement intensif aussi pour ce film, comme l'avait souligné. Puisque, eh bien, John Wick, c'est pas du flan, puisqu'il fait 98% Keanu Reeves de ses cascades. Il a appris.
Pourquoi 98%?
Parce qu'il y a 2%, c'est que... ouvrir une porte, ou comme ça, c'est des plans rapprochés.
Exactement. Ça a été finement calculé tout ça. Et donc Alberi bah, a suivi le même type d'entraînement, à savoir bah, trois types d'arts martiaux différents.
Non, je les prends tous les deux.
Et aussi ce qu'on appelle du gunfu. Donc le gunfu, c'est un peu bah, ce qui a fait la marque de fabrique de John Wick, c'est-à-dire en fait un mélange donc d'arts martiaux traditionnels ainsi que la maîtrise des armes à feu. Et donc ils ont suivi exactement le même entraînement et ça donne lieu bah, vraiment des scènes qui sont viscérales et qui sonnent vraies, quoi. Qui à aucun moment ça sonne faux. On le sent, enfin c'est vraiment
c'est
hyper prenant,
c'est brutal, quoi.
Brutal.
Et après ça, il laisse sa place dans le métro parisien, quoi.
Ouais, c'est un, bah justement.
New Yorkais surtout, ouais.
C'est une des raisons pour la. Ouais, c'est New York, ouais.
Ah, je crois que
c'est une des raisons pour laquelle j'aime Keanu Reeves, c'est que ce mec-là est, bah, c'est un mec en or, quoi. Tout ce qu'il fait dans la vie de tous les jours, c'est. Enfin, je pense qu'il y a bien un acteur d'Hollywood qui, on n'a rien à dire sur lui de négatif, c'est bien un mec comme ça. Et donc du coup c'est marrant de le voir à contre-emploi dans un film comme John Wick où bah il tue à tour de bras.
Oui,
alors
c'est ça.
C'est,
il a pas l'air d'être comme ça dans
c'est
la vraie
ça
vie, quoi.
Et le pire c'est que c'est quelqu'un de
dans
très
la
calme
vie, tu bats tout le monde.
Non mais
c'est pas un badass, quoi.
Ouais, non mais tu le vois dans sur les
ça
plateaux
tout gentil,
ouais, il est hyper calme, il est hyper zen. Il est hyper zen et tout, et dans ce film John Wick il est hyper nerveux, etc. Donc c'est marrant de le voir vraiment à contre-emploi, quoi.
Oui.
Et alors, tu parlais du fait qu'il ait justement réalisé ses cascades et du coup, ouais, j'imagine une bonne partie des combats. Des images que Poufy nous montre, on a l'impression que c'est pas des cuts très violents, que justement on peut apprécier un petit peu,
ouais,
les chorégraphies.
Justement,
ça change, j'ai l'impression.
L'un des gros points positifs du film, c'est en fait d'avoir des plans longues séquences qui ne sont donc pas coupés et ça permet d'admirer bah, différentes cascades qui sont bah, de A à Z, quoi. Et justement, ça a posé quelques problèmes puisque par exemple à Casablanca, ils ont tourné dans une partie de la ville où il y avait énormément de chats. Et donc du coup le problème c'est que le personnage d'Alberi a deux chiens, deux malinois, et en fait pendant toutes les séquences les deux malinois couraient après les chats, en fait. Et donc du coup c'était une catastrophe pour l'éleveur de chiens de pouvoir les dresser correctement en sachant qu'il y a tous ces chats et partout autour et qu'ils rendaient fous les chiens, quoi. Sans compter bah, les problèmes de faux raccords potentiels entre différents plans parce qu'il y a un chat à un endroit et pas un autre, etc. Donc ils ont réussi quand même pas mal à rendre le truc sympathique. Sinon le film est toujours aussi met toujours bien en lumière les villes, notamment la ville de New York est vraiment sublimé de nuit, hein, toujours, souvent, souvent de nuit. Et si je passe un mélange d'effets de lumière un peu façon cyberpunk dans la mise en scène des lumières,
très néon,
c'est
quoi.
Très néon, ouais, c'est vraiment, y a un côté vraiment splendide. Et même dans la manière dont c'est toujours très léché, tous les plans sont très légers. Par exemple, la scène qu'on voit dans la bande-annonce, c'était la deuxième bande-annonce qui a été publiée. On voit le personnage donc, de Ian McShane qui interprète Winston, qui écoute du Vivaldi. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a une grande scène de combat avec John Wick et des mercenaires. Et voilà, c'est vraiment somptueux. Tout, on sent que tout est calculé, enfin, vraiment au poil de cul. Tout est calculé, c'est incroyable quoi. En fait, chaque scène que l'on voit, chaque coup de poing, etc., est faite de telle manière que ça ressorte bien à la caméra et que ça sonne vrai et que ça rentre bien quoi. Il y a aussi une scène somptueuse, c'est quand il se rend à l'opéra et on voit donc des danseuses sur scène. Alors, outre la musique qui est très belle, hein, c'est vraiment un espèce, on assiste comme ça à un ballet. Alors qu'auparavant, on a assisté à une scène de combat et c'est un peu aussi cette différenciation entre les deux, entre scène d'une grande douceur et scène d'une grande violence qui fait tout le charme de ce film là quoi. Après, c'est vrai qu'en termes de combat, le 3 est vraiment au-dessus des autres. Déjà, parce que, enfin, pour ceux qui n'aiment pas la violence, ça risque d'être problématique, parce que c'est vrai que c'est un film qui est vraiment, qui envoie vraiment du lourd.
A priori, ils sont au courant avant d'y aller.
Non, mais pour le coup, John Wick 3 surpasse vraiment. Il y a des scènes qui sont limite, enfin, presque trop violentes, en fait, qu'ils en montrent un peu trop. Mais ça reste très impressionnant, et franchement, c'est un film que je peux que vous conseiller.
Est-ce qu'il y en a parmi nos lecteurs qui l'ont déjà vu? Parce que je crois savoir qu'il y a eu des avant-premières partout en France.
Non.
Et que, non, personne parmi vous. Non, mais j'avais cru comprendre qu'il y avait des avant-premières en plus, donc tant pis, mais en tout cas, ça fait. Ah, Eve.
Il y a ce connard d'Angel qui est arrivé sur le Discord et qui ne daigne même pas venir ici.
Il peut pas.
Ouais, bah, qu'est-ce qu'il fait sur Discord?
Il nous dit quand même salut les amis, donc ça voilà. Reste gentil.
Oui.
Ça reste les bon amis, enfant, virgule. Évidemment. Donc
et Nathan,
John Wick.
Nathan l'a vu et le conseil vivant aussi.
Nathan l'a vu, donc.
Il a vu Angel.
Voilà.
Il a vu Angel.
Non, John Wick, pardon.
Oui.
Mais qui sort je crois en salle, qui est sorti le 22, donc
il est sorti
combien,
ce mercredi.
Ce mercredi, c'est ça, ouais.
Ce mercredi 22 mai. Exactement. 2019, et je pense que je vais y aller très vite. Merci Camille pour ce hors-jeu. On va pouvoir passer maintenant au premier thème de ce podcast. Le premier thème de ce podcast, on en parlait tout à l'heure, c'est le partenariat historique. Enfin, paraît-il, hein, moi j'étais pas là.
Là on entend les capsules.
Là j'étais pas là. Donc le partenariat historique entre Sony et Microsoft. Est-ce qu'on se dirige, Thomas, vers la fin de la guerre, vers la fin de la guerre des consoles?
Non.
Ah bah voilà, c'est tout ce que je voulais savoir.
C'est tout.
Il l'affirme même de toute façon. Donc.
Non, je vais vous demander un récap. Je vais peut-être demander à Julo un récap parce que
bah, je suis pas la personne la plus indiquée.
Bon, attends,
pour faire
t'es le
récap,
meilleur.
Non, mais c'est un partenariat stratégique sur l'utilisation des serveurs Azure de Microsoft.
Du cloud,
dans
quoi,
voilà, dans l'idée de d'améliorer le cloud gaming du côté de chez Sony.
Essentiellement.
Et c'est un partenariat qui est pas. Enfin, si c'est surprenant parce que c'est Sony et Microsoft et que nous on le voit d'un point de vue jeu vidéo, etc.
Non, mais visiblement ils ont déjà fait des trucs avant entre eux, mais ils disaient pas forcément.
Ouais, mais ce qui est assez intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a eu d'autres articles qui sont parus par la suite et dans lesquels on apprenait que l'équipe PlayStation était absolument pas au courant.
Bloomberg a eu des sources qui lui ont indiqué que chez PlayStation, ils étaient pas au courant, ils l'ont appris le jour où la news.
Voilà, ça s'est fait donc dans le plus grand secret, y compris dans la division PlayStation, qui est pourtant évidemment concernée par ce deal. Mais quelque part, on peut aussi y voir quand même un relâchement dans la tension qui peut exister historiquement dans les relations entre ces deux sociétés et puis d'une manière générale dans la guerre des consoles. Mais on avait déjà vu ça se relâcher entre
après,
Microsoft et Nintendo pour toutes les raisons que vous connaissez.
La maison mère Microsoft, c'est plus gros compétiteur, c'est plus gros concurrent, c'est pas Sony.
Ah bah,
c'est Google, Sony, c'est Amazon, c'est Facebook.
Exactement.
Et Slack aussi, d'ailleurs, j'ai vu.
Et d'ailleurs, Sony avait travaillé d'abord avec Amazon pour l'utilisation de ses serveurs. Et donc ça, c'est un changement aussi. Et puis, effectivement, Sony est un concurrent de Microsoft à la hauteur de la division Xbox, quoi. Mm. Mais c'est qu'une division dans une boîte tentaculaire. Donc,
Oui, Camille, bah, c'est ça. C'est une concurrence en termes de jeux vidéo, mais en termes plus global, Sony, c'est un grain de sel à côté de Microsoft. Donc, le gros point fort à faire, c'est en fait déjà il y a une lutte plus ou moins contre, enfin on peut l'interpréter comme ça, contre Google Stadia.
C'est quand et même, Apple aussi et, peut-être et un Apple petit aussi. Peu.
Mais c'est vrai que bah, les deux géants américains ont lancé une offensive il n'y a pas si longtemps que ça sur le streaming de jeux vidéo. Mmh. En sachant que cette annonce-là ne concerne pas que le jeu vidéo, ils tiennent à le rappeler. Ouais. Mais c'est un moyen pour eux de lutter aussi contre ces géants-là qui sont... Bah, inarrêtable à tel point que maintenant même des gouvernements comme le gouvernement Trump etc. essayent de lutter de différentes manières contre l'omniprésence de Google qui maintenant est partout et parfois ça peut poser quelques problèmes quoi.
Et c'est quoi alors les bienfaits autant bien aussi bien du côté Microsoft que du côté Sony avec d'un tel partenariat?
Bah, pour moi c'est intelligent dans la mesure où justement les serveurs et la technicité que Microsoft a eu au fil des années, elle est mise au service de Sony, justement éventuellement du PlayStation Network et peut-être plus tard du PlayStation Now aussi, parce que c'est ce qui se murmure aussi. Et pour Microsoft, bah, ça fait un client quand même assez solide, le fait d'héberger justement tout le futur jeu en cloud de chez Sony. Ça te garantit des revenus assez constants et moi j'ai l'impression que c'est quelque chose de très bénéfique pour les deux parties finalement. Et on est justement très très loin de cette espèce d'affrontement un peu viscéral, guéguerre qu'on pouvait avoir à une certaine époque.
Et Microsoft possède toute l'architecture serveur, ils ont les moyens de pouvoir le faire et d'aider Sony dans ce sens-là. Quoi.
Et en fait, ça rappelle juste le partenariat Apple-Samsung, parce qu'en fait, simplement, Apple n'a pas le choix d'aller voir Samsung pour leurs écrans. Et au final, il y a trois fournisseurs de cloud, Google, Amazon et Microsoft. Et donc au final, Google est aussi probablement un concurrent. Donc soit ils vont chez la concurrence, soit ils le font eux-mêmes. Mais
d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les télé Samsung, désormais, il y a une application Apple TV. Donc ça aussi, c'est assez étonnant. Ça s'est fait dans l'autre sens aussi. Les dalles, les écrans, etc. Et dans les télé Samsung, une application Apple TV qui est son système.
Et surtout, en fait, Microsoft Azure, ils bossent dessus depuis des années. Il y a des investissements colossaux. Et surtout, je pense par rapport à Amazon, ils sont déjà prêts pour le jeu vidéo, en fait. Avec tout ce qui. Moi, j'ai des anciens collègues, en fait, qui sont dans cette branche gaming Azure. Et en fait, ils ont fait des développements énormes liés à PUBG, notamment. Donc, c'est logique. Ils ont tout prêt.
C'est une suite logique du truc.
C'est une suite logique en fait. Ils sont tout prêts. C'est vraiment Sony. Ils ont aucun intérêt à investir dans des data centers. C'est pas leur cœur de business en fait.
Et ça coûterait trop cher à entretenir. Voilà. Alors qu'il y en a déjà qui sont en route chez Microsoft.
Il y a un service tout prêt qui marche et qui est prêt à l'emploi. Donc,
oui, parce que on peut dire toujours tout ce qu'on veut, mais le PlayStation Network par exemple, il a jamais été spécialement réputé pour être fiable. Le Xbox comparé au Xbox Live qui lui par contre est impeccable.
Il faut rappeler aussi que Sony avait quand même investi déjà dans le cloud gaming et c'est comme ça que le PlayStation Now est né, en achetant
Gaikai,
la société Gaikai, mais ça suffisait pas a priori et là ils ont une meilleure solution avec Azure. Donc oui, il faut pas conclure qu'il y a plus de guerre de console, etc. Il va toujours y avoir la marque Xbox, la marque PlayStation évidemment, ça remet absolument pas ça en cause. Mais par contre, on peut s'imaginer aussi que le fait que ça soit moins tendu dans les rapports et qu'il y ait des rapprochements de ce type, ça va un petit peu servir peut-être les plans de Microsoft tels qu'on les imagine là pour le futur, on va dire à moyen terme, quoi, sur cette idée que Xbox et le Game Pass, etc., serait quelque chose qui tiendrait plus désormais du service que du hardware et qui pourrait être intégré dans différents endroits. Donc on parlait des télé Samsung il n'y a pas longtemps.
Nintendo éventuellement.
On parle de Nintendo avec les accords qu'on a pu voir déjà naître et qui sont loin d'être terminés. Et aussi, pourquoi pas pour avoir des applications Game Pass, Xbox, dans n'importe quel hardware, y compris
les PlayStation.
Voilà.
Donc en fait, on a l'impression que Microsoft, ils sont tout gentils, ils font le bien autour d'eux, mais ça se trouve, c'est pour mieux dominer le monde.
C'est leur plan, hein, tu sais. Ils veulent vraiment dominer le monde. Comme les autres.
Tu voulais dire
Oui, simplement, on voit aussi que du coup, il y a une vraie importance au streaming en ligne qui est... cette génération, elle a l'air assez particulière. Clairement, on sent qu'il ne va pas du tout y avoir de fin de la guerre des consoles. Simplement, la guerre a changé. La guerre est en train de changer. Il y a des nouveaux compétiteurs qui arrivent sur le marché. Du coup,
Et sur plusieurs fronts, hein.
Les anciens.
Sur plusieurs fronts. Maintenant, t'as les consoles, comme tu vas avoir le streaming, comme tu vas avoir aussi le téléchargement avec le Xbox Game Pass, par exemple.
Ce sera moins les consoles que les services. C'est une guerre de services.
Pour le téléchargement, t'as besoin d'une console.
De quoi?
Pour jouer au Game Pass, tu as besoin d'une console. Tu,
ouais,
pour
l'instant,
tu vas
pour
pas.
L'instant. Pour l'instant.
Ouais.
Pour l'instant.
Ouais.
Mais imagine. Bientôt, t'auras juste besoin de ta télé Samsung.
Ouais, mais est-ce que ta
grâce
télé, elle va pouvoir faire tourner Gears of War 6?
Mais
quoi,
c'est pas ta télé qui le fait tourner. Ça tourne dans les serveurs.
Ouais.
Et toi, ce que tu reçois dans ta télé, c'est juste un signal vidéo.
Mais avec le Game Pass, tu télécharges le jeu. C'est ce que je voulais dire.
Mais actuellement, oui.
Ouais.
Mais le plan, c'est pas du tout ça. On sait très bien que le développement du. D'ailleurs, ça a été annoncé très clairement par Microsoft à l'E3. C'est de créer un service de cloud gaming pour faire du streaming à un niveau qu'on doit atteindre pour pouvoir faire du jeu vidéo en streaming.
Mmh.
Parce qu'on sait bien que c'est facile avec Netflix, on reçoit qu'un flux vidéo, etc. Ouais. Avec le jeu vidéo, tu envoies et tu reçois. Et donc, pour des jeux comme des FPS, etc.,
Street Fighter,
bah, il faut qu'il y ait pas. Faut pas qu'il y ait un ping très élevé, etc. Et donc, les développements qu'ils font sur leur technologie de cloud, c'est spécifiquement pour que ça fonctionne avec du jeu vidéo. Et donc, pas plus besoin de hardware. À partir du moment où la Xbox devient un service et plus un hardware, tu peux streamer tes jeux sur ton téléphone, sur ta télé, sur ta PlayStation.
Alors, Philippe, très vite, parce que je crois qu'on a coupé Fenril dans son élan.
Mais...
Ce qui des fois peut être une bonne chose, quand on parle de Dragon Ball Super notamment. Mais
vas-y,
là...
termine.
Non, non, c'est la bête.
Ouais.
Non, bah non, enfin voilà, j'étais un peu au bout de mon idée, mais je me posais simplement la question aussi sur la partie réalité virtuelle. Je me demande comment cette notion de streaming pourra se faire, parce que on sait que si oui, sur un FPS ou sur un jeu, moins il y a de ping, mieux c'est. Mais en réalité virtuelle, il faut qu'il n'y ait pas de ping du tout, quasiment. Donc est-ce que le streaming, techniquement, ça sera possible?
Tu te projettes loin dans l'avenir, hein.
Voilà.
Donc, tu te projettes très, très à loin, je pense. Ouais, c'est peut-être ton boulot aussi, remarque. Oui.
Mais je me pose quand même des questions.
Oui, c'est vrai qu'on pourrait se poser cette question, mais. Non, pas moi.
Ça sera pour une prochaine.
Pas tout de suite. Philippe.
Oui, non, je me posais la question en fait sur l'accès. Enfin, qui aura exactement accès au cloud? Parce que pour l'instant, là, c'est vrai qu'on se projette, mais c'est pas quelque chose auquel tout le monde aura nécessairement accès forcément.
Avec les déconnexions.
Voilà, les déconnexions, etc. C'est une inquiétude que je vois souvent dans les commentaires. Donc,
et c'est pour ça
effectivement
que les hardware vont continuer à exister tant que.
Bien sûr, tant qu'il n'y a pas encore.
Tant
cette,
que ce sera pas
vraiment
démocratisé, vraiment.
Voilà.
Donc, dans
c'est
le monde
vrai
entier.
Que. Mais est-ce que le fait aussi de. C'est une question que je me suis posée en préparant. C'est le fait que Microsoft et Sony se retrouvent avec les mêmes data centers, le même netcode aussi, parce que j'imagine que tout va être vraiment unifié. Est-ce que c'est pas aussi quand même un moyen d'anticiper la possibilité d'avoir d'autres jeux crossplay beaucoup plus facilement, beaucoup plus simplement entre
en fait,
techniquement,
pour répondre à ta question, techniquement c'est très simple le crossplay.
Ouais.
Là où ça bloque.
Mais là encore plus simple.
C'est que en fait c'est politique.
Voilà,
c'est effectivement, et c'est exactement ça, c'est politique. Et Sony actuellement est celui qui traîne le plus la patte lorsqu'il s'agit de valider en fait les options crossplay dans les jeux tiers. Et ils le font en fait par un processus de validation qui est beaucoup plus long, etc., beaucoup plus restrictif, etc.
Mais est-ce que justement,
mais en fait
en se faisant héberger par Microsoft, est-ce que ça fait pas un pas justement pour dire aussi peut-être que plus tard ou pas trop tard, il y aura plus de possibilités en termes de crossplay, ils se sentiront peut-être plus prêts?
Non, parce que je te dis, c'est pas un
problème. C'est surtout politique.
C'est pas un problème technique. Donc
ouais.
Voilà, il suffit de changer la politique et la technique.
Bah après,
quand
t'es sur le PlayStation Network et que ta connexion elle est pourrie et que tu veux jouer avec ton pote sur Xbox, il y a aussi une partie technique.
D'après les dires des développeurs, il y a aucun problème technique. Aucun.
C'est Fortnite l'avait activé.
Oui,
par
oui.
Surprise,
ah oui,
pendant
par
le week-end,
oui, par
il y a vraiment
par surprise.
Aucun problème technique.
Ouais.
C'est une fois que c'est codé que c'est pas compliqué. C'est vraiment le processus de validation du côté de Sony qui est long et compliqué. A priori, en tout cas, c'est ce que.
Thomas, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, c'était pour répondre à la question de Fenril, puisque Nick Kubik du Voxel, qui est présent sur Discord, nous précise qu'il existe déjà des solutions sans fil pour la VR, donc du stream, et que ça fonctionne très bien, et nous cite l'exemple du Tipeeecast ou les solutions Intel. Mais c'est pas exactement la même chose.
Ça marche en Wi-Fi. Donc il suffit que tu aies une très bonne connexion. Parce que ce qui limite, c'est le sans fil, c'est la connexion avec soit l'ordinateur,
voilà, l'ordinateur. Mais par contre, du data center à la maison, ça reste encore une prouesse.
Ah, Balouk,
je sais pas si vous avez vu ce qui se passe aussi avec la 5G. Mmh. Déjà avec la 4G, on a des débits incroyables. La 5G, c'est tout. Donc, pour moi, même pour la VR, avec un Oculus Quest plugué 5G,
vous avez acheté un Oculus Quest?
Souci, quoi.
J'en ai acheté un. Ouais.
Ah, t'en as acheté un? Ouais, ouais. Ça y est, tu l'as et tout.
Je dois aller le chercher demain à Fnac.
Ok, moi, pour moi, c'est le premier pas, l'Oculus Quest, vers la démocratisation de la VR. Parce que c'est le seul casque qui est à la fois autonome, capable de supporter des jeux de qualité quoi, supérieure, et qui te reconnaît dans l'espace et qui donc ajoute la, je sais pas quelle dimension c'est, enfin la profondeur,
l'axe des
Z, quoi, l'axe des Z,
et c'est surtout celui qui fait le moins flipper, je trouve, à l'utilisation. Bah ouais, si tu te places du point de vue du grand public
et qui effectivement, et dernière chose, t'as raison, il enlève le problème principal de la VR qui est le
câblage, les caméras,
le câblage et le fait de devoir posséder un hardware à côté, etc.
Ouais, mais justement t'as plus de liberté, donc si tu te balades de plus, si t'es vraiment quelqu'un qui a la bougeotte, tu te balades plus dans ton appart, tu te cognes encore plus.
Non, parce que t'as un système de un peu comme sur le Vive, t'as vu comment ça marche sur le Vive.
Un système de grille pour te dire que...
Exactement, et en fait tu scannes ta pièce avant en disant voilà, là c'est la limite de mon aire de jeu, et il y a une grille qui apparaît. Sauf que là il fait a priori automatiquement, enfin t'as peut-être un réglage à faire effectivement la première fois, mais en tout cas il te permet de pas te cogner dans ta pièce.
Et comme il y a des caméras, si jamais tu dépasses la grille, tu vois le monde réel.
Oui.
Et donc là c'est pas mal.
Qui arrive en surbrillance, enfin en surimpression. Non, c'est l'Oculus Quest, franchement. Moi, le problème, c'est que ça coûte 450 balles ou 550 balles selon la version que t'achètes. C'est une question de mémoire. Mais, franchement, pour moi, j'ai trop envie d'en acheter un, quoi. Mais parce que du coup, jouer à Beat Saber, ça prend 10 secondes. Et c'est fourni avec les manettes. Fourni avec les manettes.
Moi, j'avais passé le cap pour le Vive. Et au final, gérer un PC, avoir toujours la bonne spec pour faire tourner les jeux, installer les capteurs et tout, c'est en fait, on n'a pas envie de jouer. On n'a pas envie de s'y mettre. Donc un Vive vendu d'occasion, c'est un Quest. Donc au final
ça vaut trop le coup.
Voilà.
Et puis on sait que ça va baisser parce qu'il y a le prix aussi qui pose un problème, mais dans les mois qui viennent, le Black Friday qui arrive, les machins, etc., tu vas pouvoir avoir des Quest, et puis ça va baisser petit à petit. Une fois que la technologie est sortie, commercialisée, etc., on sait que progressivement ça fait baisser les prix. Donc
bon, on a fini avec.
Est-ce que je laisse ma place à un autre invité.
Oui, si tu veux, si ça te fait plaisir, si tu veux plus nous rester avec nous.
Non, je reviens dans 5 minutes une fois que j'ai
picolé,
fumé une clope,
une fois que j'ai fait ce que j'avais à faire.
Ah, d'accord. Eh ben écoute,
Eva.
Eva, pourquoi pas? Bah si, Eva, écoute, tu viens d'arriver.
Ouais, personne l'a vu.
T'es arrivé avec ta bière.
Et comme ça, on lui dit bonjour.
Et comme ça, en plus, on peut te dire bonjour et on est très content de te revoir.
Attention à la bière.
Hop. Vas-y. Alors. Salut mon pote, exactement. Bon, on va revenir au sujet principal quand même. On va conclure rapidement sur cette histoire de partenariat. Est-ce qu'on peut imaginer, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas l'année prochaine, mais un vrai rapprochement entre Xbox et PlayStation, partant de ça, Thomas?
Bah, je vois pas forcément ça comme un rapprochement, c'est juste une modification en fait de la manière dont on joue ou dont on consomme le jeu vidéo si on est un salopard.
Mais est-ce
que ça peut être
un premier pas? C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'on peut interpréter ça comme un premier pas ou juste non, c'est des affaires business, merci.
Bah, moi je le vois un petit peu comme ça en fait, c'est juste que Microsoft offre une prestation de service dans lesquelles ils ont justement une certaine maîtrise et dans lesquelles on les reconnaît là-dessus à Sony qui a besoin d'une infrastructure et qui assez logiquement va trouver un des acteurs du marché pour se fournir. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment très, très simple et très concret comme rapprochement. Je vois pas ça forcément aller au-delà vers une fusion du jeu vidéo, machin. C'est
la question que j'allais te poser. J'allais te dire, tu veux une fusion
Bah non, voilà. T'as ta réponse. Merci, au revoir. Philippe.
Après, tout dépendra de l'agressivité de Google et Amazon quand ils arriveront sur le marché. C'est vrai que peut-être qu'ils seront obligés d'aller un peu plus loin. Alors, je parle pas de fusion, hein, clairement, j'y crois pas du tout, mais dans le partenariat, même avec Nintendo, il y en a qui parlent d'un grand MSN.
Non, parce qu'on se rappelle quand même qu'il y a 20 ans, on n'aurait jamais imaginé
que Nintendo
et Sega, qu'on allait se retrouver avec un jeu Sonic sur une console Nintendo un jour.
Grosse différence, ouais. Sony et Sega ne font que du jeu vidéo ou presque que du jeu vidéo, là où la division jeu vidéo chez Sony et Microsoft n'est justement qu'une division parmi toutes les activités des deux entreprises,
même si elle est très importante.
Si elle est très importante, on n'est pas dans le même cas de figure.
Bon, et bien écoutez, je pense qu'on en a fini avec ce premier thème, très intéressant ma foi, et c'est le moment de la deuxième question. Et oui, deuxième question pour le concours. N'oubliez pas qu'il va falloir répondre à trois questions durant ce podcast.
Arrête qu'on va
vous
poser.
Vous allez sur Twitter, vous followez Gameblog, vous répondez avec le hashtag Gameblog500 aux trois questions en vous adressant à Gameblog, évidemment. Et la deuxième question est, attention, très précis. Tu veux la lire, Eve, c'est ça? Tu lis pas la réponse.
Non,
hein,
elle va lire la réponse,
ouais,
j'en suis sûr.
Je sais que t'en es capable.
On dirait un grand-père avec sa petite fille. Tu veux lire ça?
Combien de temps précisément a duré le tout premier podcast de la rédaction?
Hop, et on s'arrête là. Et
ça concerne que le premier podcast à chaque fois.
Que le voilà, ça concerne le. Bon, peut-être pas la dernière, je sais plus. Je me rappelle pas des questions, à vrai dire. Bah oui, non, mais on prépare, mais après on oublie, hein, tu sais, à mon âge.
Quelle classe.
Alors, vous l'avez bien retenu cette deuxième question? On espère que oui, parce qu'il n'y aura pas de rattrapage. Et on va passer au thème numéro 2 maintenant. Le thème numéro 2, c'est Observation, Thomas.
Tout à fait.
C'est le jeu de la semaine. Il y a eu l'actu de la semaine juste avant. Là, c'est le jeu de la semaine. À bien des égards, parce que le studio écossais No Code nous avait sorti il y a un an et demi, deux ans, un jeu qui s'appelle Stories Untold, qui avait beaucoup plu.
Je l'ai testé d'ailleurs.
À Camille. Mmh. Avec Observation, on s'attendait à quelque chose de plutôt costaud, un espèce d'odyssée de l'espace avec des éléments un peu plus horrifique, un peu plus de tension, qui avait l'air plutôt joli en tout cas dans les vidéos, que toi t'avais pu essayer directement chez eux en mangeant du haggis, évidemment, sous une photo de ton ancêtre William Wallace.
Alors
que
moi,
tu connaissais
moi non, mais il y en avait
évidemment.
Non, je n'ai pas mangé de haggis, je me suis contenté de boire du whisky.
C'est déjà énorme.
Oui, c'est déjà très bien.
Bon, alors Observation, finalement, est-ce que c'est ce très bon jeu narratif d'aventure qu'on attendait?
Alors c'est plus compliqué que ça.
Ah, bah j'en étais sûr.
On vous en avait
pareil. On demande de répondre par oui ou non. Toi, c'est toujours oui. Alors écoute,
ce qu'on appelle un casse-couille, quoi, en langue commune.
Et fier de l'être avec ça.
Ouais. Thomas le Rouge.
Donc pourquoi est-ce que c'est plus compliqué? On avait déjà vu la première heure. On vous avait fait part de nos impressions, effectivement, il y a quelques semaines, où on avait pu découvrir le début et la situation très compliquée dans laquelle on allait retrouver Emma Fisher, que vous avez là à l'écran. Rapidement, Stories Untold, tu l'as dit, c'est un espèce de thriller qui se passe dans l'espace, dans un futur assez proche. On est, je crois, en 2024, dans ce qu'est devenu, on imagine, la station spatiale internationale, qui est donc un peu plus complexe et plus développée que celle qu'on connaît à l'heure actuelle. Et vous allez incarner non pas l'un des membres de l'équipage, mais Sam, qui est donc l'OS de cette station. Donc c'est un peu l'équivalent de HAL dans le film de Kubrick que tu citais juste avant. Vous allez profiter en fait de l'omniprésence de Sam, qui maîtrise toutes les caméras qui sont disponibles à bord du vaisseau, pour aider la jeune Emma Fisher. Pourquoi l'aider? Parce qu'en fait, la station Observation a été victime d'une collision dont on ignore à peu près tout. On assiste au réveil d'Emma qui redémarre Sam, qui du coup, par une petite pirouette scénaristique, voit sa mémoire corrompue. Donc on a oublié tout ce qui s'est passé au moment de l'impact, et du coup on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc on va découvrir en même temps que cet astronaute comment s'articule un petit peu la station, puisque vous servez des caméras, mais ces caméras vont vous permettre en fait d'interagir, puisque Sam est une OS connectée avec à peu près tout, d'interagir avec tous les ordinateurs de bord et autres devices qui sont à bord de la station.
Donc c'est un peu un Night Trap version plus.
On pourrait éventuellement le comparer, oui, puisque on va switcher entre différents points de vue, entre différentes caméras. En fait, vous avez quatre branches comme autant de nationalités dans cette station spatiale, et au fur et à mesure, vous allez les débloquer. Chacune d'entre elles propose tout un tas de pièces en enfilade, avec à chaque fois 2 à 3 caméras par module. Donc,
Night Trap, c'est bien le jeu des années 80-90.
90.
90.
Avec les jeunes filles que tu dois sauver dans une maison en faisant tomber des brigands dans l'escalier, etc. Ouais. Tout à fait. Et donc le problème, c'est que au fur et à mesure que vous allez découvrir un petit peu, rallumer, on va dire, les différents modules, il y a quelque chose d'assez bizarre qui se passe. Il y a ce message amène là qui apparaît et qui semble s'adresser à Sam. Et donc on va un peu mener l'enquête en même temps qu'Emma, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce que mine de rien, tout l'équipage avec lequel elle avait embarqué a disparu. Donc au fur et à mesure, thriller oblige, on va découvrir ce qui est arrivé aux différents membres d'Observation. Le problème, c'est qu'au début, c'est très chouette, on est vraiment pris par le scénario. La première heure que j'avais pu essayer t'accroche immédiatement, parce que sans spoiler, au bout de 45-50 minutes, on se rend compte en fait d'où on est, dans l'espace et ça va pas du tout. C'est techniquement pas possible. Donc il s'est passé quelque chose de très bizarre et il va falloir découvrir finalement ce qui s'est passé. Comment ça se passe ? Eh bien, comme je disais, on alterne entre les différentes caméras, on zoome, on s'accouple, si je puis me permettre, avec les différents ordinateurs de bord, et ça va permettre de débloquer des portes, de permettre à Emma justement d'évoluer dans la station, de partir à la recherche de ses coéquipiers, mais aussi d'essayer de changer un petit peu la trajectoire et de comprendre ce qui s'est passé. Donc en fouillant les ordinateurs, on récupère, comme dans tout bon jeu d'horreur, des journaux de bord qui nous disent beaucoup de choses sans jamais trop en dire, puisqu'on est dans un espèce de flou permanent dans Observation. Le scénario est vraiment intéressant, j'ai été plutôt accroché. Le seul problème, c'est que entre tout ça, vous avez des petites phases de puzzle qui, au début, sont assez sympathiques. Et au fur et à mesure, le jeu prend un malin plaisir à un petit peu complexifier la chose. Et on se retrouve très vite, comme dans ces vieux point and click de l'époque, où dans certaines phases, tu
faisais tout l'écran pour changer de pixel.
Voilà, te retrouver paumé sur 3-4 écrans à se dire, il faut que je fasse un truc, parce que de toute façon, j'ai que cette zone de jeu pour interagir. Mais je comprends que dalle. Et moi, ça m'est arrivé vraiment à de très nombreuses reprises. La narration de Observation, en fait, vous fait passer par plusieurs phases, et des fois, on se retrouve aux commandes de Sam, alors qui, à un moment donné, n'est plus bloqué aux seules caméras. On t'installe dans un espèce de petit module volant qui fait penser à Wheatley dans Portal 2, le côté mégalo est barré en moins. Mm-hmm. Et du coup, tu peux te balader vraiment à travers la station, aller dans tous les recoins, trouver des passages dans lesquels les humains ne pourraient pas se glisser. Et ça devient très vite labyrinthique, parce que dans une station spatiale, tu te rends compte que rien ne ressemble plus à un couloir qu'à un autre couloir et qu'au couloir qui le suit, etc. Et donc au bout d'un moment, on est complètement paumé. Alors ça marche bien, parce que du coup on a l'impression d'être en apesanteur véritablement, c'est-à-dire que le haut, le bas, le nord, le sud, tu t'en fous, tout ça n'a plus vraiment droit de cité, tu finis par t'habituer en fait à avoir la tête dans n'importe quel sens. Mais tu as tous ces puzzles qui souvent se révèlent très cryptique, c'est-à-dire que si tu ne comprends pas tout seul que tu peux interagir avec tel élément et qu'en appuyant sur telle touche et en combinant ça avec ça, tu vas déclencher une séquence, tu peux passer des heures à tourner en rond et à...
Mais est-ce que c'est pas voulu ? Est-ce que c'est pas souhaité par les développeurs, justement, cette difficulté
Je pense honnêtement que ça l'était à minima.
Est-ce que c'est pas un manque d'observation de ta part ?
Oh. Tu veux dire que je suis peut-être le roi des cons, en fait ?
Non,
pas. Et pas peut-être, justement, oui.
Pour le coup, Thomas est adepte de puzzle game, donc je pense que...
Je t'avoue que ça fait très longtemps que je me suis pas senti aussi nul en jouant à un jeu.
Carrément, tu t'es fait humilier ?
Non mais vraiment, j'en parlais à Poufy qui s'y intéressait. J'ai passé... Non mais Baba Is You, t'avances, tu comprends des trucs. Là, si t'as pas compris qu'avec tel élément t'allais pouvoir faire avancer l'intrigue, rien ne te l'indique.
Il y a plein
d'objets avec lesquels tu peux interagir qui vont te servir en fait beaucoup plus tard, mais qui sont là, donc qui te laissent éventuellement penser que ça va avoir une utilité pour la poursuite du scénario, et pas du tout. Et sur cet aspect-là, je trouve qu'Observation peut être très frustrant. Alors, ça va dépendre après de votre génie mental. Si vous êtes comme Trace, j'imagine que ça va rouler et que vous allez le...
T'as lancé le jeu, il est déjà fini.
Voilà, le faire en une traite. Le problème, c'est qu'il y a vraiment des moments où le jeu est très, très, très cryptique. Vous avez une fonction qui vous permet de vous adresser à Emma en lui demandant de répéter le dernier ordre qu'elle vous a donné. Si jamais vous êtes paumé, vous avez mis le jeu en pause ou vous avez oublié un petit peu ce qu'il fallait faire. Et le problème, c'est qu'elle vous donne des indices, mais c'est des indices d'une nébulosité mais absolue. C'est-à-dire qu'on dit « Ah oui, mais je t'avais dit de faire ça. » Oui, d'accord, mais quoi et où voilà. Donc si t'as pas fait attention, tu peux vite te retrouver complètement paumé et malheureusement, ça gâche un petit peu, je trouve, l'expérience. Le jeu est très plaisant de par l'histoire qu'il te raconte, qui est intéressante vraiment jusqu'au bout. Le jeu, en fait, ne te délivre la clé de compréhension de tout ce qui s'est passé qu'à vraiment la dernière seconde. Il y a un petit côté Ghost Trick, tu sais, dans le reveal, à la toute fin. J'ai trouvé ça super intéressant de le suivre, mais les phases de gameplay, elles m'ont parfois tellement pris la tête que ça m'a coupé un petit peu dans mon élan. Et pour ça, je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que c'était un jeu qui avait tout justement pour être assez fluide et pour s'adresser à un très large public, parce que c'est un thriller spatial avec une petite pointe de fantastique. Le problème, c'est que voilà, il y a tous ces puzzles parfois assez cryptiques, et qu'en plus le scénario se permet de mettre à couvert quelques éléments. Il y avait ces journaux de bord dont je parlais juste avant qui te permettent de recoller un petit peu les morceaux de ce qui s'est passé, mais tout ça est toujours un petit peu flou, et jusqu'au bout il y a des éléments de l'intrigue en fait qui sont laissés comme ça à ta libre appréciation. Du coup, il y a un petit sentiment d'inachevé quand même, je trouve. L'ambiance est très bonne, j'ai pas parlé du sound design, mais on est dans quelque chose d'un peu oppressant. Il n'y a pas vraiment de musique, c'est des bruits de fond, des espèces d'ambiance, de bruits sourds un petit peu permanentes. Elles sont super chouettes. Le problème, c'est que quand tu passes 2 heures, comme ça m'est arrivé, à chercher avec quel putain d'item tu devais interagir, au bout d'un moment ça saoule en fait l'ambiance en question. Donc voilà, c'est les deux revers de la médaille. J'ai trouvé voilà, l'intrigue vraiment intéressante à suivre jusqu'au bout. Malheureusement, dans ces mécaniques, il y a quelque chose d'assez maladroit par moment et d'inachevé, ce qui fait que voilà, Observation est un jeu satisfaisant, mais je trouve pas forcément plus.
D'accord, très bien. Bah écoute, je pense qu'on est assez bien renseigné. Au pire, à aller relire le test de Thomas sur Gameblog. 6 sur 10 donc pour Observation.
Donc si vous êtes surpuissant, allez-y, puisque vous allez y arriver et que tout ira très bien.
Voilà, si vous êtes trace, il n'y aura pas trop de soucis. Eh bien, on va passer au thème numéro 3, tout simplement, maintenant. Et le thème numéro 3, eh bien, je crois, Thomas, que tu vas peut-être passer un truc à certains des membres de la rédaction.
Un micro, tu veux dire ?
Non, des petites feuilles. Et d'ailleurs, bah, moi, je vais m'esquiver juste un instant, vous m'excuserez. Et après, on passera à tout à fait autre chose.
Ah.
Vous viendrez sur les canapés, là, tous les quatre, évidemment. Et on va vous réserver un petit...
T'es en train de dire que t'as pas les questions, c'est ça ?
De quoi ?
De questions,
si ? Bah si, c'est toi qui as autre chose par contre, Thomas. Tu peux parler dans le micro, il n'y a pas de souci. De toute façon, les gens savent qu'on n'est pas organisé et qu'on parle de Marc Dacacos ou je sais plus quoi, comment il s'appelle. Voilà, exactement. Marc Dacacos, ouais. Exactement. Hop. Donc.
Tu parles des anecdotes,
c'est ça ? Oui, absolument.
Ok.
Donc, qui veut lire ?
Panique à bord.
C'était cryptique ça aussi.
Bah non, c'était pas cryptique du tout, absolument pas, Thomas. Alors qui veut s'asseoir ici ? Bon, vous savez quoi ? Traz, je vous propose de revenir.
Ah bah oui, Traz, en maître de cérémonie, tiens, prenez ma place, monseigneur.
Ouais, je te laisse ma place quelques instants.
Qu'est-ce que je dois faire ?
Bah tu vas co-hoster, tu vas hoster quelques secondes.
Qu'est-ce qui se passe ?
Vas-y.
Non, tu vas pas aller fumer, hein, surtout
non,
pas.
Non,
hein.
Pas du tout. Non.
T'as pas le droit. Hein.
Hop. J'ai pas bu de bière encore, c'est criminel.
Bah vas-y, va boire 4 bières 25.
Ça c'est criminel.
Et qu'est-ce qui se passe alors, Plume ?
Il y a des choses à dire.
Alors, je parle avec deux micros. Est-ce que ça fait quelque chose de particulier ? Non ?
Bon, Thomas, il faut que tu me dises des trucs alors. Vous en étiez où là ?
Alors, a priori, comme c'est parti, on a sélectionné pour aller rapidement,
pour être honnête,
trois anecdotes de la part de nos chers lecteurs que vous avez laissé dans les commentaires de la news de ce podcast 500.
Exact.
Et
t'as peur du coup ?
Pardon ?
T'as peur ?
Ah non, moi ça va, c'est toi
ah
qui
bon
flippe.
Bah non, pas du tout, regarde.
Et l'idée bah, c'était qu'a priori ce soit vous, très cher lecteur, qui nous lisiez ces commentaires. Et je crois qu'on a une petite série de questions après qui nous attend aussi.
Ouais. Ah, donc la série de questions, je l'ai pas ici, mais.
Donc j'en ai sélectionné trois, du coup
bah,
je vais vous passer le micro et hop, vous donnez tout ça et.
Prenez ce micro.
Vous ouais allez prendre votre voix la plus suave et la plus sexe. Pour,
attends, le mieux c'est pas qu'il s'assoie ici directement. Bah oui. Non, mais bouge pas, Eva. Moi je vais bouger et comme ça Dieu va m'être témoin que je fais super gaffe. Allez-y hein.
Allez-y mettez monsieur, installez-vous.
Bah, il veut plus bouger Kenyest. C'est vrai ?
Allez-y, allez-y.
Parlez bien dans le chromie et comme ça tout le monde vous entendra.
Mais c'est une use différente par personne ou ?
Oui bah allez-y, faites comme vous le sentez. On a sélectionné trois anecdotes.
Bien, hein, parce qu'il y a une console là. Surtout ne pas la faire tomber.
Trois commentaires de la part de nos lecteurs et du coup je vous passe le micro, mon cher Fenril, tu peux te lancer.
Mais ils en ont un micro. Hein.
Très bien. Alors, bah, ça vient de Nathan donc.
Non, pas du tout.
Ah.
Si.
C'est indiqué sur ma.
Non, mais faut pas écouter Traz.
Alors, 500 podcasts. Putain, c'est beau. Bravo à vous pour tout votre boulot, car avec la petite équipe que vous avez, 24 heures dans une journée. Et bien sûr, les impondérables, ça n'a pas dû être facile tous les jours.
C'est vrai.
Vous avez pourtant mis un point d'honneur à nous offrir chaque semaine des podcasts de qualité. Ils sont tellement entrés dans mon quotidien que, comme l'a déjà dit Maxime Gérassi, la pause de l'été m'apparaît comme souvent trop longue, car elle n'est pas rythmée par ma dose hebdomadaire de podcasts. Alors, on arrive à la question.
Comment est-ce que vous bossez toutes les semaines, toute l'année
Et tu veux dire que quand on fait pas de podcast, on bosse pas, hein, c'est ça ?
Exactement.
C'était ça l'idée.
Bah, j'étais là il y a pas longtemps. J'ai bien vu que vous en foutiez pas une.
Et oui.
Je voulais pas casser l'ambiance. Hein, mais...
Non, moi je suis concentré sur.
Tu me rappelles ton poste avant de partir. C'était rédac chef, hein, c'est ça.
Oui, mais. Okay.
Non, mais c'était pour un
truc de façade.
Nathan,
c'était une couverture.
Nathan vous demande comment avez-vous vécu tous ces podcasts consacrés aux jeux vidéo ? Au départ, sur mon autoradio, vous m'avez accompagné pendant près de 2 ans sur les trajets Le Mans-Angers. Ensuite, en vidéo sur mon PC et maintenant sur ma TV. Ah, ok, en fait c'était lui qui posait.
Oui, on vous fait, a posé une série de questions en fait et vous avez été plusieurs à nous y répondre.
News,
à savoir comment est-ce que vous avez découvert les podcasts.
Moment.
Ce genre de choses.
Si tu veux, je pose des questions et tu réponds.
Mais là, c'était pas une question, c'était un témoignage de comment j'ai découvert les podcasts.
Oui, mais parce qu'on a posé justement les questions qui allaient bien.
Donc la deuxième question c'est quel est votre meilleur souvenir ?
Alors, j'ai fait une question.
Ah, ouais, mais elle m'intéressait pas celle-là. Ouais, on va la faire après.
Alors, donc, c'est difficile, mais les interventions de Tonton Bourré, les échanges du duo Julo Plume, ceux du duo Thomas Camille et les podcasts pré-E3 qui font toujours place au rêve.
Comment les avez-vous connus ?
En même temps...
C'est toujours Nathan, là, du coup, c'est ça ?
Oui, c'est toujours Nathan.
Okay.
En même temps que GB... Grâce à mon meilleur ami Baba qui m'a fait découvrir votre fine équipe.
Ben merci Baba.
Baba is you.
Baba c'est lui en tout cas.
Baba is relou. Qui vous horripile le plus ?
Personne, mais une chose que fait quelqu'un, les bruits de mastication et de respiration de Johnny One.
Ah,
quand il ne parle pas.
Qui admire ?
C'est vrai qu'il est relou.
Ouais, je prends plus le micro devant ma bouche quand je ne parle
pas. C'est une bonne idée.
C'est pas mal.
Donc il s'est entraîné, vous voyez. On l'a briefé, coaché, maintenant c'est un autre homme.
Donc next question. Qui admirez-vous le most ?
Thomas.
Oh putain.
Pour la couleur de sa tonte.
Oh là là.
Exactement.
Oui, déchirez-le, ouais.
Ses origines nordiques, sa culture, son flegme, son autodérision, sa diction, l'impression qu'il est toujours content d'être là où il est. Son temps perdu sur Discord et qu'en même pas 2 ans, il est devenu un incontournable de l'équipe.
Est-ce que je peux avoir son numéro ?
Et le mec est devenu et le mec est devenu un mème, donc 3 petits points.
Oui, alors ça c'est à cause de plus.
Non.
Je tiens à apporter. C'est pourquoi c'est ma faute.
C'est toi qui fais les emojis à la con, tu sais, sur le Discord de la rédac.
C'est celui où tu souris comme ça là ?
Oui. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Poufy.
Ah, c'est vrai ? Ah bah.
Bravo Poufy.
Bah, Poufy, je te maudis. Si.
Quel est l'invité le plus coolos que vous ayez jamais entendu dans nos émissions ?
Maxime Gérassi.
Qu'on salue évidemment.
Quelle classe. Vas-y, bah, tu peux faire. Tu veux que je fasse la conclusion ? Donc Nathan conclut en disant : en tout cas, as usual, j'ai un super accent anglais, restez comme vous êtes, faites ce que vous avez envie de faire. Je vous souhaite un bon podcast, de bons 500 autres, un bon E3 et longue vie. Cœur sur chacun de vous.
Merci Nathan. Cœur sur toi aussi.
Merci Nathan.
Des gros bisous Nathan.
Eh ben mon cher Doudin, je vois que toi aussi tu as une feuille en main.
N'hésite pas à prendre le micro aussi.
Il y en a plein des micros, il y a des moyens chez Gameblog, donc vous pouvez y aller. Tant que vous n'oubliez pas de le coller sur votre menton évidemment.
Ouais, alors il y a Fromage qui nous dit, qui vous félicite pour les 500 podcasts. Et qui, d'ailleurs il est insomniaque, et donc il vous écoute la nuit. Donc il nous dit: je crois que Cereal Butcher faisait pareil. Merci pour les franches parties de rigolade, pour les discussions bienveillantes, les podcasts thématiques où j'ai toujours appris plein de choses très chouettes. Alors quel est le meilleur podcast, c'est ça? Le meilleur podcast, il dirait le podcast Le Multijoueur, le podcast que vous avez dû recommencer, et le podcast Tomb Raider avec Chris Fighter. Ça vous dit quelque chose?
Ouais, carrément, ouais.
Le podcast que vous avez dû recommencer.
Le podcast qu'on a dû recommencer, c'est le
44,
ouais, c'est ça. Donc vous pouvez trouver sur le blog la version Unplugged. Oui,
je l'ai réécouté tout à l'heure.
C'est vrai ?
Oui.
C'était marrant, hein, franchement.
Il a aussi retenu le plus zarbi, qui est celui avec des célébrités dans le jeu vidéo où vous avez cité un jeu avec la gaffe dedans.
Ouais.
La Zubida.
La Zubida, ouais.
Et ceux qu'il a moins aimé, il a cité aussi.
Il y a peut-être des passages que j'ai oublié d'enlever.
Et oui, voilà. Donc Zelda.
Ah.
Voilà, donc on peut passer à la question d'après.
Voilà. De quoi pour, tu zappes la question de celui que vous allez moins aimer, c'est ça?
Non, mais j'ai oublié de virer des passages. Oh.
Ouais, pas, voilà, et puis il vous félicite pour les 500 autres émissions réussies.
Merci, Fromage.
Merci beaucoup.
Et des gros bisous.
Voilà.
Et il te remercie, Julot, ce côté de passage. Merci pour ces moments.
C'est vrai?
Ouais, et tu arrêtes de bouger. Enfoiré. Et que tu cartonnes dans ton nouveau taf.
C'est très gentil, merci beaucoup. C'est Fromage toujours.
Toujours
ouais.
Fromage.
Ouais. Bah merci Fromage.
Ceux qui sont restés, 500 autres émissions réussies quoi.
500 sodos, ça partait dans autre chose.
Aussi, pourquoi pas.
C'est peut-être un peu moins agréable à savoir.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Ça dépend, c'est une petite dose d'amour quand même. Une sodo.
Non, c'est une grosse dose 500. Ça pèse.
Ça dépend qui. Moi par exemple, ce serait une petite. Mais bon.
Et bon, pour finir du coup
Bandini,
ah, Bandini,
mais pas le moindre. Salut Bandini. J'étais là pour le premier, vous savez. Oui, parce qu'il faut faire une voix de sage. Par conséquent, je les ai tous écoutés, mais en zappant les passages sur le foot. Faut pas déconner. Et j'en ai même réécouté certains, toujours en zappant les passages sur le foot. Pas besoin d'essayer de me la faire à l'envers.
Il y a moins de passages sur le foot que il y a quelques années.
Qu'il y a plus Angèle. Ouais. Régulièrement. comme les trucs historiques sur la Super Nintendo, etc. Je vous écoute la plupart du temps en bossant, presque toujours avec ponctualité et religieusement chaque mercredi. Je n'ai jamais été fan de la version vidéo parce que justement, j'écoute en bossant sur ordi. Je peux pas tout faire. Dans un futur fantasmé, j'aurai 8 yeux et 8 bras, coquin, et je bosserai en jouant et en vous regardant et en me grattant les roubignoles. Super coquin.
Tu l'as improvisé celle-là ou c'était vraiment dedans?
C'est écrit.
Ok.
C'est écrit.
Ouais, monsieur connaît. Mes meilleurs souvenirs d'émission sont forcément ceux qui tirent sur la nostalgie, puisqu'on en parle de meilleurs souvenirs. Avec des invités de la grande époque Super Nintendo, où je lisais Player One, Joypad, mais aussi Joystick, Chris Fighter, Jim Destroy, etc. Mais j'ai aussi de bons souvenirs d'invités pertinents, que l'on a hélas pas beaucoup entendus, comme Thierry Falcoz ou Pif de Mad Movies. Et puis, je trouve aussi que Julot et Raon, et CAF, sont des grands manques pour mes oreilles sales. Dans les moins bons.
J'ai peut-être pas fait mon taf là aussi.
Ah voilà. Non, ça va, t'as fait un bon taf.
Ça va ?
Ouais. Dans les moins bons, vous n'avez toujours pas invité Patrick Helio pour un podcast sur les point and click. C'est scandaleux.
C'est vrai que ça avait été prononcé, je crois que c'est Traz qui l'avait dit à un moment donné. Il est
là. Voilà, cœur. Je serai là pour le millième. Comme Vincent Lambert. Oh le bâtard. C'est moche.
Non, t'aurais dû vraiment le dégager. Hein.
Alors, je ne suis pas d'accord parce que tout le monde a éclaté de rire quand je l'ai lu à voix haute dans la rédac.
Ça, j'imagine.
Tout le monde a le droit d'en profiter aussi. Donc,
ok,
voilà.
D'accord.
Merci à toi, Bandini.
C'est ouais. Sale, mais c'est propre.
Je pense qu'on va se prendre une remontada judiciaire.
Voilà, c'est ça. Enfonce le clou, tu as raison. Et du coup, je crois que tu peux récupérer le micro, mon cher Plumeau.
Alors, je vais prendre celui-ci en attendant.
C'est toi qui as mis une cravate, donc
parce
c'est quoi
que, le présentateur ? Parce qu'en fait, on va complètement chambouler la disposition là. Donc, Balouk. Fenril, vous allez rester sur ce canapé. Par contre, Kanye et Doudin, vous allez venir sur ce canapé. Nous, on va aller ailleurs. Je sais pas comment, mais on va aller ailleurs.
Ok.
Ouais, et c'est moi qui. Bah, tu sais quoi, je vais prendre le micro. Je vais prendre ce micro là en fait. Voilà. Hop, bah voilà, ça y est, j'ai ce micro. C'est bon, vous allez chacun avoir votre propre micro. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, on a des moyens chez Gameblog.
Et que
on vous a réservé une surprise très spéciale à vous en particulier. Puisque vous dites que vous êtes des vrais fidèles de Gameblog, eh bien nous vous avons réservé tout simplement un quiz.
Aïe, aïe,
et oui, un quiz. Connaissez-vous bien Gameblog? Alors je ne sais pas si c'est moi qui vais lire toutes les questions. À mon avis, on va tourner pour essayer de faire quelque chose de très sympa. Donc, on va faire très simple. Je vais vous expliquer façon Denis Brognard. Vous avez chacun un cri à pousser en guise de buzzer. Alors, vu votre ordre, ça va être très simple. Kanye, tu diras Barthez. Tu as bien compris ? Barthez. Doudin, okay. Tu seras café. Okay. Voilà. Fenril, tu seras Tiepi.
Tiepi.
Voilà. Et donc, Balouk, tu seras Zebbi.
Zebbi.
Voilà.
Okay. Et il manque Mitterrand quand même.
Mitterrand, c'est en trois syllabes. Il faut essayer d'équilibrer. On a pris des trucs en deux syllabes à chaque fois.
Oui, mais il y a pas mal de poétiques qui disaient Mitterrand, donc ça peut passer.
Ou Mitterrand.
Ouais. Ou Elmiter, oui, c'est vrai. Absolument. Donc, nous avons 20 questions ici pour savoir si vous connaissez bien la rédaction de Gameblog. Donc, je dis là, je vais m'asseoir, ça sera beaucoup mieux qu'en voyant mes fesses à l'écran.
Pourtant, elles sont sexy.
Hop. Donc,
Première question, messieurs, vous vous rappelez vos buzzers, tout est bon, vous êtes prêts? Combien de canettes de Coca Zéro sont englouties par Romain chaque semaine?
À 5 près. Barthez, 20.
Ça passe. Ça passe, ça passe. C'est entre 25 et 30 selon la police, 2 selon lui. Un point donc pour Cagny, je sais pas qui prend les points de notre côté. Ok, donc c'est Thomas qui compte, on est dans la merde. Question numéro 2. Qui, à la rédaction, est surnommé le plus petit monsieur ou monsieur frites?
Café.
Oui.
Thomas.
Oui, absolument. Un point pour Douda. Absolument, bravo. Vous connaissez bien la rédac, hein, franchement, là, vous êtes bien attaqué. Question numéro 3. À qui doit-on, dans la rédaction, le jeu de mots? Attention. Veggie fils aimé.
Café.
Oui.
À toi?
Non.
Non.
Absolument pas. Mais. Ça passe. Mais ça aurait pu passer. C'est Tras, évidemment, qu'il a inventé. Ouais, non, bien sûr, mais j'aime bien lui piquer ses vannes de
temps. Ah, tu lui as piqué.
Et j'ai fait semblant de lui piquer. Deux points pour Doudin. Un point pour Cagnéiste. N'est-ce pas, Thomas?
Ouais.
Bon. Quatrième question. Quelle partie d'un célèbre discours de Jacques Chirac, Camille répète-t-il à tue-tête chaque jour que Dieu fait?
Café.
Oui, Doudin.
Manger des pommes.
Non, non, pas perdu. Tu ne peux plus participer.
Tipeee.
Oui.
Le bruit et l'odeur.
Ah, bravo. Ah,
oui. On va l'accepter, puisque la phrase exacte est « Si vous êtes tout à cela, le bruit et l'odeur. » Voilà, c'est exactement ça que Camille répète tous les jours. Et on ne sait pas pourquoi. Voilà.
Il doit être ravi avec moi, en tout cas.
Non, alors, 2 pour Doudin, 1 pour Cagnéiste, 1 pour Fenril. Cinquième question. Qui se plaint chaque matin que son PC est encore allumé?
The B.
Oui.
Romain.
Perdu.
Barthez.
Oui.
Thomas.
Perdu.
Merde. Je
Doudin, Fenril.
Ah.
Putain, t'as l'air de, bloquer mais de puissance. Ça a l'air vraiment d'être la pire question de, de l'univers pour lui.
Tipeee.
Oui.
Fenril. Toi.
Non. Café. Ah là, vous n'avez plus
Café.
Qu'une chance. Oui.
Romain.
Perdu, Loudin, perdu, perdu, c'était Traz. Et voilà, un point qui est malheureusement dans la nature. C'est affreux. Question numéro 6. Reprenez-vous. À qui doit-on la jolie top dessinée avec amour dans les bureaux de la rédac?
Café.
Oui.
Ève.
Absolument. Encore un point pour Loudin.
3 points pour
Loudin. 3, 1, non,
3,
1 et
1.
1, 3, 1. Ok. Toujours 0 point pour Balouk.
Histoire de ma vie, ça.
Question numéro 7. Lequel de nos pigistes reçoit plus de courriers et de paquets à la rédaction que chez lui?
Café.
Ah, café, malheureusement.
Vous êtes pas rapide, hein, ouais. Johnny One.
Eh oui, absolument.
Évidemment. Avec c'est son vrai. Fameux. Bravo, et ça, Doudin. Je peux prendre.
Oui.
Je tiens à préciser pourquoi est-ce que je fais livrer mes paquets ici. C'est parce que j'ai pas de boîte aux lettres chez moi, en fait.
Voilà, merci
simplement. Il n'y a pas de boîte aux lettres.
Et ok, le on facteur, a l'explication.
Le facteur, si je fais livrer un colis chez moi, il le laisse sous le tapis sur le palier.
L'homme vit dans le bois de Vincennes.
Bon. C'est un peu chaud, donc du coup, je fais livrer ici, c'est plus pratique.
Les colis relais, ça n'existe pas.
Nous en sommes à combien de points, Thomas? 4 points pour Doudin, 1 point pour Kenny, 1 point pour Fenril et 0 point pour Balouk, toujours la lanterne rouge. Question numéro 8, je ne sais pas pourquoi on l'a laissé, mais ok. Qui s'est auto-surnommé Poufi le FDP?
Barthez.
J'ai entendu, je crois que j'ai entendu Barthez en
c'est
premier. Oui.
Poufi.
Oui, bravo. Elle était vraiment très dure. C'est effectivement Poufi. C'était d'ailleurs une soirée premium dans laquelle nous avons fait un jeu de quiz dont j'ai oublié le nom et c'est là qu'il s'est surnommé Poufi le FDP. Nous sommes à 2 points pour Kenny. Tout est encore possible. Il reste 11 questions. Balouk, tu peux faire une remontada.
Ouais, ouais.
Peut-être.
Ouais, peut-être.
Question numéro 9. Qui, depuis les années de Joypad, surnomme-t-on avec affection mais réalisme Zefman?
Barthez.
Oui.
L'homme qui est à ma droite, monsieur Julot.
Absolument. Encore un point pour Cagny. Question numéro 10. Qui vit près d'un château en province?
Tchépi.
Oui.
Ah, merde. Ce monsieur.
Ouais. C'est-à-dire?
C'est-à-dire.
Parce que à l'oral, à l'audio, ça passe mal. Oui, tu dis?
Thomas.
Thomas, absolument. Un point pour Fenril.
Le petit monsieur.
Monsieur Frit.
Question numéro 11. Qui a tellement chaud qu'il a toujours un petit ventilateur USB sur son bureau?
C'est Café.
Ah.
Romain.
Absolument. Un point pour Balouk. Voilà, l'honneur est
bon,
au moins sauf.
Je peux dormir maintenant.
Question numéro 12. Qui ne passe jamais à la rédac sans faire le tour des étagères, des fois que...
Café.
Oui.
Johnny One.
Absolument. Encore un point. Encore un point pour Doudin. Ça fait 5. Question numéro 13. Attention, c'est la plus difficile de toutes. J'insiste. Vraiment, concentrez-vous. Essayez de vous remémorer les meilleures années de votre vie. Non, t'en regarde pas, toi. Essayez d'être concentré. Car je vais vous poser à tous... Qui parmi vous peut épeler correctement le nom de famille de Raon? Oh. Ah oui.
Si personne ne le trouve, je le fais.
Allez, Barthez.
Ah.
S-Z-E-R-H.
Suivant. Oh, vous allez tous y passer, alors autant le faire maintenant. Non, mais flippez pas comme ça.
Il vaut mieux passer en dernier.
C'est pour ça que je me suis lancé, je me suis dit, allez.
Joker. Yolo.
Alors, suivant? Pas de suivant? Parce que, ouais. Attention, la question va être perdue.
C'est Julo qui va avoir la réponse.
Non, mais...
Il va y avoir un H là-dedans, mais...
Je sais pas.
Mais non.
Je sais pas. Vas-y. Personne veut se tenter?
Non, c'est bon.
C'est vrai?
Bah alors?
Non, mais vous êtes des...
S...
Mais comment vous avez...
Ah, 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 Buzz d'abord, buzz d'abord.
Café.
Ah, bon alors.
Boudin. S, H...
Perdu.
Non, voilà.
Voilà, merci.
S, Z, H.
The B.
Oui.
S, Z...
Oui, il y avait un Z en plus.
C.
Je suis très con.
Ah, perdu. À la Fenrir, explique toi.
Alors, donc, SC.
Perdu. Voilà, merci.
Z.
Il fallait suivre les autres aussi. Allez, Julo, il paraît que tu sais
la réponse.
Vas-y.
S-Z-R-I-F-T-G-I-S-E-R.
Bravo. Voilà, Julo a la bonne réponse, mais tu n'as pas de
point. Je peux te faire aussi Nitkevich.
Non.
N-I-T-K-I-E-W-I-C-Z.
Alors, ça, Karine, qu'on salue au passage. Question numéro 14. Reprenez-vous. Quel membre de la rédaction est tellement insupporté par le moindre bruit qu'il va jusqu'à mettre des boules qui s et son casque par-dessus? The B.
C'est Camille.
Perdu.
Barthez.
Oui.
Romain.
Perdu.
Merde.
C'est... Ah non mais...
Non mais après...
Ok. C'est... C'est Thomas.
Perdu.
Non, je pensais que c'était Romain mais...
Je t'ai fait bugger.
Fenrir, il te reste une chance. Ouais.
Du coup.
Rapproche le micro.
Ah.
Très fort.
Tipeee.
Non, je sais.
Oui.
Traz.
Perdu.
Non, c'est Poufy.
Non, c'est WAM.
C'est toi
tout simplement. Eh oui, on dirait pas comme ça. Question numéro 15. Celle-là aussi, elle est dure. Celle-là aussi.
Je peux me permettre une petite anecdote entre deux, comme ça. Il fait pas que mettre des boules caisses.
Bah, je mets le casque par-dessus.
Le casque de chantier.
Le casque de chantier. Et lorsqu'il est dans un salon, par exemple, et qu'il doit dormir avec quelqu'un d'autre dans une chambre d'hôtel, il met également un petit masque sur les yeux.
Je l'ai fait avec toi, ça?
Et oui.
Ah, je me souvenais pas.
Une serviette sur les genoux.
Une serviette sur les genoux, mais
une tisane avant de se coucher.
Alors là,
vous m'avez suivi, quoi.
Ça va, t'en rajoutes pas.
Un épisode de Columbo.
Alors attention, la question numéro 15 peut être décisive. Ou pas. Pourquoi ce connard d'Angèle est surnommé ce connard d'Angèle?
Tiepi.
Ah, Tiepi.
Parce que c'est un connard.
Exactement, voilà, tout simplement. Exactement.
La meilleure
question
du...
Question. Question numéro 16. Question numéro 16 donc. Quel est le premier jeu qui a écopé d'un 0 sur Gameblog? Ah, vous faites moins les fiers là.
Ça commence par un S.
Exact. Au moins vous avez un indice. Non, c'est pas Shrieve Geezer. Je vous le dis tout de suite. Voilà.
Non, c'est pas SingStar. Non,
non.
Il y aurait eu.
Non, puis de toute façon, là,
faut que tu baises avant.
Ouais.
N'oublie pas.
Non, aucune idée.
Vous ne connaissez pas assez bien Gameblog.
Ah, mais là.
Vous allez perdre. Vous savez quoi? J'ai décidé de changer la règle. Vous allez perdre des points maintenant. Toi, en premier. Non, je plaisante. Bah, vous avez l'air de tous sécher.
C'est sur quelle console?
Un autre indice?
Ah, mais.
3DS.
Non, DS.
DS. Ok, DS.
Aucune idée.
J'aurais dit 3DS.
Tipeee.
Oui.
Super Truck Deluxe.
Non. Mais t'as une partie de la réponse.
Ouais. C'est des trucs.
T'as une partie. Non, mais c'est tout. Ça suffira pas, je pense. Ouais, non, mais c'est super dur.
Non, ouais.
Je vous le dis tout de suite. Faut vraiment le savoir. Julo, encore une fois, tu vas voler le point à nos candidats.
Super Nacho Man.
Super Nacho tout court.
Super Nacho tout court.
Absolument. Jeu adapté d'un film avec Jack Black qui est très mauvais.
Oh mon dieu.
Absolument, mais il y a eu ça. Aussi plus tard Realms of Arcania et surtout Rambo The Video Game testé par Tiger ou encore Tenkai Knights Brave Battle que je ne connais pas du tout. Bon, il y en a eu des zéros quoi. Question numéro 17. Qui dit qu'il est toujours prêt alors qu'il n'est pas prêt?
Barthes.
Oui.
Barthes.
Et Barthes avant.
Ah, Barthes, pardon.
Johnny One.
Perdu.
Ah, merde, ça aurait pu.
Romain.
Perdu. Buzzer, attention.
Café.
Ouais.
Julo.
Oui, bien sûr, évidemment que c'est Julo. Julo n'est jamais prêt. C'est comme ça tout le temps. Bon, qui est tout le temps en vacances? Question numéro 18.
JP.
Barthez.
C'est Julo.
Perdu.
Zebi.
Oui.
C'est toi?
Bah ouais. Ah oui. Il paraît. Ah oui, voilà, ah oui, il paraît. Ah oui. Que,
il revient. C'est une légende urbaine.
Question numéro 19. Les comptes, il n'y a pas d'égalité ou quoi que ce soit.
2, 6, 4, 2.
Ok. Question numéro 19. Qui est à la rédaction? Les potes avec Patrick Balkany.
Martez.
Oui.
Romain.
Exactement. C'est même lui qui l'a marié, pour tout vous dire. Voilà. Après savoir s'il lui a donné des petites sous de table, je ne sais pas.
Bah, t'es obligé.
Question numéro 20. Malheureusement, je pense que c'est un peu compliqué pour.
Ouais, je crois qu'il y a un petit. Il y a un petit bip dessus.
Oui, il y avait un petit bip. J'ai dû appuyer sans le faire exprès. Donc, question numéro 20. Il n'y aura pas de genre à départager. On sait déjà que c'est Doudin qui a gagné. Ouais, mais on va la faire.
Super.
Mais ouais, grave.
Ok, alors c'est Super Banco. Ok, Super Banco. Julo.
Le gagnant gagne.
Julo vient de le dire. Le Super Banco, c'est l'avenir. Question numéro 20. Qui, à la rédaction, n'aime pas les gens?
Café.
Martez.
Ah, café.
L'autre, le mec là.
Camille.
Perdu.
Martez.
Tipi.
Thomas.
Perdu.
Quoi?
The Beach.
C'est vrai.
Malouk.
Poufi.
Exactement, Malouk. La remontada de Malouk.
La remontada.
Oh là là.
La remontada.
Personne ne s'y attendait. Oh là là. Oh, il a pioncé pendant tout le truc. Il a sorti. Il a ouvert un oeil. Oh, bah c'est Poufi. Bah oui, exactement, c'est ça. C'est Poufi. Oh, on avait une question subsidiaire. C'est dommage. On aurait bien voulu vous la poser, mais on le fera pas. Voilà, tout simplement, on ne le fera pas. Eh bien, bravo Malouk. Tu remportes toute notre estime.
Merci. Merci beaucoup.
Alors ok, alors c'est encore plus injuste. La question, ouais mais là non, la question subsidiaire pour Balou qui.
Elle est trop pourrie.
En plus il est capable de gagner aussi, donc ouais bon allez on va la faire quand même. Une question qui concerne donc, pas vraiment Gameblog. Ah bah c'est le, je sais même pas comment on dit, c'est
Turbo Banco.
Voilà, le banco absolu. Alors attention, ça concerne pas trop Gameblog, mais un peu, en tout cas son esprit. À quelle date le film La classe américaine a été diffusée pour la première fois sur Canal+.
Et là,
aucune idée.
31 alors, décembre.
Attends, et le buzz.
Ah, The Bee.
Oui.
31 décembre. 80. 16.
Ah,
Barthez.
Ah, perdu.
31 décembre 99.
Perdu.
Bah, café.
Oui.
Avant. 31 décembre 97.
Perdu.
Tipi.
Oui.
Ah ouais.
31 décembre 94.
Eh ben non. Alors là vous franchement vous m'énervez tous, vous êtes tous perdus.
Donc il y a aucun gagnant, ouais, rentrez nous.
Voilà, c'était le 31 décembre 93. Ah. Non mais alors là, j'en reviens vraiment pas quoi. On a fêté les 25
ans
là, il y a
c'est con, il y avait la console à gagner.
Ouais, en plus voilà.
Putain, merde.
Donc c'est vraiment dommage.
Je me déteste.
En tout cas, on s'est bien amusé. Merci. Merci à vous d'avoir participé à ce petit quiz.
Du coup, personne n'a gagné en fait.
Personne n'a gagné mais vous avez gagné le droit
de revenir.
Non, de faire l'anniversaire de la semaine.
Ouais. Ah.
Puisque ça vous est totalement adressé, vous allez pouvoir nous parler de l'anniversaire de la semaine. C'était le 24 mai 2002 sur GameCube et c'est Super Smash Bros Melee. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui y ont joué?
Doudin, oui.
Ah voilà, donc
la semaine dernière.
Qu'est-ce que tu retiens de Smash Bros Melee sur GameCube?
Ce qu'on retient tous au final, ce que retient le monde du jeu vidéo de Smash Bros, c'est quand même la grosse communauté e-sport qu'on est sorti. Parce que c'est un jeu qui est sorti donc après le succès de la version 64, qui a eu un bon succès. Et au final, peut-être beaucoup d'années après la sortie de Melee, on a eu droit à une petite communauté qui s'est formée aux États-Unis et a commencé à jouer avec le jeu que Nintendo a totalement renié. Il voulait pas entendre parler d'e-sport. Ça a grossi. Il y a eu des énormes championnats. Nintendo voulait toujours pas en entendre parler. Ils ont sorti Brawl. Les fans ont dit non, on veut continuer à jouer à Melee. Ce qui fait que encore aujourd'hui, les gens jouent à Melee. Il y a encore de grands champions, disons, de Melee qui continuent à s'affronter.
Et c'est pour ça aussi que tout le monde joue aussi avec. Enfin, les champions jouent avec des manettes GameCube.
Des manettes GameCube, ouais.
Que
toujours,
Nintendo
ouais.
a ressorti des manettes GameCube. Exactement. Avec des adaptateurs exprès pour qu'on puisse y jouer sur Wii U, sur Wii, sur Switch évidemment.
Voilà, exactement. Et donc avec Ultimate, avec le retour d'Ultimate, bah, ça remet quand même, enfin, ça remet un énorme coup de projecteur sur ce jeu. Alors que je l'ai remis dans la console il y a une semaine pour voir. Et bah, c'est difficilement jouable par rapport au nouveau, mais selon les puristes, c'est le meilleur. Donc bon.
Mais alors pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'il se démarque ?
Sa vitesse et sa technicité en fait. C'est-à-dire que le jeu n'était pas prévu pour être technique, et les joueurs l'ont rendu technique. Et Nintendo, en s'en rendant compte, a créé Brawl et l'a ralenti, l'a rendu moins technique. Et donc
Brawl, c'est la version Wii avec voilà. le mode scénar écrit par le scénariste de Final Fantasy VII.
Et pourtant, ça reste
les 8 milliards voilà. de musique et tout à débloquer.
Et ça reste un succès commercial Brawl, mais pas pour les fans en fait. Et le jeu, techniquement, quand on le voit jouer par des joueurs professionnels en e-sport, c'est pas le même jeu que vous pouvez jouer. Avec à la maison, hein. Et ils utilisent des techniques totalement un petit peu tirées du speedrun en fait, des techniques très particulières et le jeu est très compétitif et très fun à regarder. Donc bon anniversaire à lui,
ça fait quand même 17 ans et c'est pas mal du tout pour un jeu de cette trempe. Merci à toi aussi de nous avoir parlé de cet anniversaire. Moi je vais me tourner maintenant vers la caméra parce que on va passer à la troisième question du concours, donc la dernière pour vous là qui nous écoutez et qui nous regardez en direct, la possibilité de gagner cette PS4 Pro 500 millions qui n'a été produite qu'à 50 000 exemplaires dans le monde. C'est une belle machine avec un disque dur 2 Tera. Enfin bon, je vais pas vous faire le descriptif, hein. On l'a toujours pas déballé, donc vous allez pouvoir en profiter à fond. Et la troisième question, donc, que vous allez devoir mettre, vous allez devoir y répondre sur Twitter en mentionnant Gameblog avec le hashtag Gameblog500. Vous allez ajouter les deux premières réponses. Une fois que vous aurez eu ça, cette question est: quel est le premier podcast à avoir été enregistré et diffusé en vidéo dans l'histoire de Gameblog? Il n'y a qu'une réponse, évidemment. On vous laisse maintenant mettre les trois réponses dans votre tweet. N'oubliez pas de follower Gameblog avant, évidemment, de répondre. On vous souhaite bonne chance, évidemment, le hashtag, je le répète, hashtag Gameblog500. On vous souhaite bonne chance dans votre entreprise. La personne qui va gagner ce bel objet sera connue ce jeudi 23 mai. Et bah, ouais. Pas mal, hein. Moi, franchement, je crois que je vais peut-être ressortir mon téléphone dans deux secondes là pour essayer de voir ce que je peux faire. Julo, je sais qu'il l'a déjà...
Bah, techniquement, j'ai le droit de jouer, en fait.
T'as le droit de jouer ?
Bah ouais, je suis plus à la rédac.
Ouais, c'est vrai. Mais t'as encore des affaires, là, donc il va falloir la récupérer d'abord. Bon, c'est tout. Bon, en tout cas, on est content que tu sois passé, on est content que tout le monde soit passé, on est content que vous, quatre, soyez passés et ayez été absolument ridicules dans ce quiz.
Comme toujours. Ouais, sauf
pas
moi,
tous.
Évidemment.
Pas tous. Ouais, voilà, sauf toi. Comme d'habitude, comme à Mario Kart, comme voilà. À Smash. Je parie qu'à Smash, c'est toi qui gagne aussi.
Oui. Il s'est fait toiler. Ouais. Mais il m'a battu dans à la finale de notre tournoi. Donc,
ah bon
ouais. Ouais, il a remonté.
C'est une merde en fait. Il se fait toiler comme.
Ok.
Reste entre nous.
Très bien. Bah écoutez, vous allez refaire une partie cette semaine en ligne ou pas?
Bah ce serait bien qu'on fasse un autre tournoi. Ouais. Les gars.
Ouais. Allez.
Bon. Et bah écoutez.
On vous invite à vous aussi.
Bah voilà, invitez si vous voulez. En plus, il y a des gens sur le Discord, tout ça. Si vous voulez.
Si et vous voulez streamer vos parties ou pas?
Oui.
Ah bah allez-y, faites la pub.
Mais d'ailleurs, j'ai Smash Bros dans mon sac à dos, donc
faites la pub. C'est quoi?
On peut streamer dès ce soir.
C'est sur la chaîne de Kenny.
Alors Kenny, c'est quoi ta chaîne?
Ta chaîne Twitch?
Si je savais. Si seulement.
C'est Kenny.
T'es pas fait pour faire ce boulot, toi.
Tu vois, on est 4, il y a 4 vues dessus à peu près. T'as vu quand je suis un mec à l'arrache.
Donc tu partageras pas, tu veux pas donner le nom de ta chaîne?
Oh, je partagerai sur Discord.
Ok, bah alors vous n'hésitez pas à venir sur Discord évidemment. Et puis bah écoutez, maintenant que ce podcast 500 est terminé, bah, on va vous donner rendez-vous pour le podcast 501, le podcast de tous les vices. Et on vous souhaite évidemment une excellente semaine. À plus sur Gameblog.
À plus.
Ciao. Salut.